Et bienvenue dans le Paris Central Show. Désolé pour les 2 minutes de retard. Les deux là, ils faisaient un concours d'orthophonie. Je sais pas c'était quoi leur problème avec Soch. On va parler aujourd'hui de pas mal de choses. Le programme, il est chargé. On va parler de Juan, Zaïre Emery, El Shaddai, Barcola, le deal Vlahovic et Kitikié. On va parler de notre 11 avec l'effectif actuel. On va parler tactique aussi également. On va parler des déclarations de Luis Enrique. Bref, le programme est ultra chargé. On est avec Dryas, on est avec Tonton aujourd'hui. Comment allez-vous, les gars?
Ça va super et je dis bonjour au Pangola et Mix.
Au mieux.
Écoutez, n'oubliez pas, parce que si vous ne likez pas, ça veut dire que vous dites à YouTube que la vidéo, elle est nulle. Donc du coup, YouTube ne la partage pas. Et la semaine dernière, on vous avait donné un objectif de 300 likes que vous avez explosé à 700 likes pour gagner un bon d'achat. Donc restez... En fin d'émission, on fera le tirage au sort en live pour savoir qui a gagné le bon d'achat. Et en même temps, je vous fixe un nouvel objectif. Si d'ici dimanche soir, vous pétez les 500 likes sur ce live, il y a un nouveau bon d'achat à gagner. Donc,
dis les 10%. Dimanche, il y a un certain nombre de vues, il doit y avoir 10% de likes. C'est-à-dire que s'il y a 10 000 vues, il faut qu'il y ait 10 000 likes dimanche soir.
Là, tu pars dans des mathématiques plus complexes. Là, je veux 500 likes, c'est tout.
C'est pas assez.
5-2-0 d'ici demain soir. Si vous faites ça, vous mettez en commentaire votre pire joueur que vous avez vu jouer au Paris Saint-Germain et on fera un tirage au sort avec les commentaires. Bon, on va passer dans le vif du sujet.
Ceux qui disent Solaire sont disqualifiés. Hein.
Bon, on va commencer direct avec du foot. On va commencer avec Zaïre Emery. J'ai vu dans la semaine que Dortmund était à fond sur notre petit crack et à qui il reste qu'un an de contrat. Là, il s'agira en fait de le faire prolonger de manière assez urgente parce que sinon, on s'expose à un départ en Allemagne qui, franchement, me ferait plus mal que quasiment tous les Titi qui sont partis ces dernières années en Allemagne. On peut parler de Kwasi ou je sais pas d'autres encore Titi, mais celui-là, franchement, je pense qu'il me ferait mal. El Shaddai, oui, qui va partir, mais au moins lui, on va le vendre, donc déjà c'est bien. Qu'est-ce que vous en pensez, les gars?
Vas-y, commence, Arias.
C'est évident, et puis en plus, tu vois très vite que les rumeurs au niveau du milieu de terrain, elles sont pas folles, on a d'autres priorités et on a un joueur, alors ce serait peut-être un peu trop tôt de le mettre titulaire dès le début et de lui donner autant de responsabilités, mais t'as l'impression que le joueur en 6 mois il peut gagner sa place et devenir titulaire indiscutable. Le voir partir, ça serait un gâchis. Tu dis que ça te ferait plus mal de le voir partir que n'importe lequel des Titi, tu peux même étendre, enfin je veux dire, si Kylian Mbappé part avec tout ce qui s'est passé, ça me fera pas si mal. Si Marco Verratti part, on va pas en parler, mais ça me ferait même du bien. C'est un joueur, ça ferait vraiment chier de le voir partir. Faut le prolonger, faut assurer le futur. Il a un niveau qui est même trop haut pour être dans une logique de le prêter une saison pour qu'il s'aguerrisse. Il a déjà montré qu'il était capable de s'aguerrir. C'est peut-être au niveau de certaines prises de décision qui doit mûrir. Mais enfin, c'est un joueur qui est pétri de qualité. Tu le laisses 6 mois et j'ai l'impression qu'il sera titulaire indiscutable au milieu.
Moi, je vais rebondir sur ce que tu as dit, Dryas. Moi, déjà, j'ai évoqué d'abord les voleurs d'enfants parce qu'on parle de la Bundesliga et on sait que Leipzig et Dortmund, c'est des spécialistes pour ça. Dédicace à ceux qui regardent mes lives sur ma chaîne. Je faisais justement un mercato spécial Bundesliga jeudi. Et ce que je disais justement, c'est que quand tu vois les dernières années, l'Allemagne, ils adorent piocher en Ligue 1 les jeunes talents. Et là, en fait, il ne faudrait pas les laisser faire. Seulement, quand je vois Warren Zaïre Emery, je me dis que lui, il a l'air d'être plutôt clubiste parce qu'il avait déjà refusé Leipzig l'été dernier et le Bayern quand même, il faut le rappeler, ainsi que El Shaddai. Et là, je me dis que Warren Zaïre Emery, là, en fait, on lui dit Bellingham, il part. Est-ce que tu veux prendre sa place? C'est un peu le message qui est envoyé. Sauf que là, je me dis, Warren Zaïre Emery, en vrai, quand je vois le profil du milieu de terrain, je me dis que le PSG, il cherche un milieu de terrain qui prend le ballon, se projette, n'a pas peur d'aller de l'avant et peut même stater. En fait, ce profil, on le cherche, on est prêt à mettre 40 millions, 50 millions dessus, mais en fait, on l'a formé et c'est Warren. Et je me dis qu'en plus, ce serait dommage qu'on laisse partir ce joueur qu'on n'arrive pas à acheter et qu'on forme. Mais en plus, quand on voit la difficulté qu'on a à Paris à dire qu'on veut une identité parisienne parmi les joueurs, attends, là, tu l'as. T'as un mec qui est formé au club, t'as un mec qui répond aux fameux critères de formé au club, parisien, qui va mouiller le maillot et qui aime le maillot. Là, tu serais le roi des imbéciles si tu laisses partir en Allemagne, alors que bah, dans le 4-3-3 de Luis Enrique, bah, il a toutes ses chances, pas de démarrer titulaire cette saison, mais de gagner sa place au fur et à mesure, et pourquoi pas être titulaire dans moins de 2 ans au PSG.
Il y a Laurent qui a rappelé un détail important en plus, c'est pour les listes UEFA, avoir un joueur qui au moins est le N plus 1 au milieu de terrain, qui voire qui peut prendre une place de titulaire, qui vient du club, qui a été formé par le club, c'est enlever une sacrée épine du pied. Le voir partir, ce serait catastrophique.
Ben c'est ça, tu dois former 4 joueurs au club et 8 joueurs formés en France pour la liste UEFA. Ben là, tu fais coup double. Il est formé en France et au club. Donc, tac, tu remplis les deux d'un coup. Et en plus, il est au niveau. C'est pas comme si tu te forçais à garder certains joueurs qui n'étaient pas au niveau, mais qui ont juste le critère formé en France.
Comme
Comme
on
on
le
l'a fait
fait
avec
tous
Kurzawa pour être sympa. Ouais.
comme on le fait tous les ans. Tous les ans,
Voilà, comme on l'a
tous
fait
les
avec
ans, on est
certains joueurs
obligé
qui
de
n'étaient pas au
compléter la
niveau.
liste de manière un petit peu tirée par les cheveux, et ben là, tu aurais un spot qui serait loqué, quoi.
C'est ça.
Ok, bon, on a eu vos avis sur Zaïre Emery. Dans les commentaires, il y a qui est-ce que vous voyez Zaïre Emery ou Unai Emery? Bon, je comprends pas.
Non, je
Ah,
pense qu'il
d'ailleurs.
voulait faire un petit parallèle par rapport au nom de famille, mais ça n'a rien à voir.
Oui,
Unai Emery, il est
j'ai.
basque et Warren Zaïre Emery, il est martiniquais. Donc,
Ah,
si tu arrives à
vaste.
trouver logique entre les deux, t'es balèze.
Ah,
Il y
Vincent,
a une
d'ailleurs, je
grande
suis désolé,
immigration
tu.
basque, il y a une grande immigration basque en Martinique, un expert en parler. C'est connu.
Vincent, je suis désolé, tu m'avais dit que tu voulais participer au live, je t'ai répondu, je t'ai dit il faut qu'on se contacte, mais tu m'as pas répondu, donc désolé pour le live d'aujourd'hui, peut-être samedi prochain. Ok, on va parler de El Shaddai, qui avec le bonus inclus, on pourrait atteindre 20 millions pour son départ à Leipzig. Est-ce que pour vous c'est bien vendu?
Mais le truc, en fait, c'est qu'on a un joueur qui était prometteur, que tout le monde annonçait, et qui s'est retrouvé avec un coach qui a absolument tout fait pour le flinguer. Donc au vu des performances qu'il a fait, oui, c'est bien vendu. Mais c'est un truc, il faut pas perdre de vue que c'est un joueur, tu pourrais t'en mordre les doigts à terme de l'avoir vendu aussi peu, parce qu'il faut voir comment il va agrandir. Il a été mis dans des conditions qui ont été horribles par Christophe Galtier. Il s'est fait descendre derrière en conférence de presse par Christophe Galtier, remis dans un match juste derrière qui était aussi un match couperet, juste après lui avoir bien coupé les jambes et lui avoir bien mis la tête sous l'eau pour lui remettre la tête sous l'eau. Enfin, c'est même plus la peine qu'il reste au Paris Saint-Germain. Il y a un traumatisme qui s'est créé. Il faut qu'il parte. C'est bien pour le joueur et pour le club, c'est bien. Maintenant, attention. Et je voulais réagir à ce qu'a dit Vincent. On s'emballe pas hein, sur Emery. On s'emballe pas sur Emery. On n'est pas en train de dire qu'il faut qu'il soit titulaire tout de suite, que c'est devenu le nouveau joueur. Mais il a montré par sa maturité qu'il était capable d'une progression très très impressionnante. Et moi, je ne serais pas surpris dans 6 mois de le voir titulaire au club. Je m'emballe pas. Hein.
Non, bien sûr. Bah, pour répondre à Vincent sur Warren, bah, il a 16 ans. Regarde le nombre de matchs qu'il a fait la saison dernière et c'est le plus jeune buteur de l'histoire du club devant Anelka. Donc à partir de là, tu fais ce que tu veux de cette information. Blague à part, j'allais sur El Shaddai maintenant. Bah, Timothée El Shaddai, quand tu vois, comme l'a très bien dit Draya, je ne vais pas répéter ses propos, sa saison a été complètement sabotée. Et aujourd'hui, tu ne peux pas dire qu'El Shaddai, il est au niveau auquel tu attends au Paris Saint-Germain. Rajoute à ça que Luis Enrique, il préfère jouer à 4 qu'à 3 derrière. Là, actuellement, si on s'amuse à faire le compte, hein, Lucas Hernandez, Skriniar, Kimpembe, Marquinhos, Danilo Pereira, Mukiele peut jouer aussi en défense centrale. En fait, El Shaddai, s'il reste au PSG, il est à la 7e roue du carrosse. Donc là, en fait, tu te tires une indemnité de transfert au lieu de le laisser partir libre chez les voleurs d'enfants, comme on a pu faire les dernières années. Et là, tu peux en tirer une indemnité. Le seul truc, moi, qui m'interpelle et qui me pose question, et j'en attends un peu plus, j'attends d'avoir plus d'infos sur le deal, c'est est-ce qu'on a une clause de rapatriement comme le Real Madrid avec Carvajal, qui l'avait rapatrié pour 5 millions de Leverkusen, ou est-ce qu'on a mis une clause de revente comme avec Nkunku, Diaby, Maignan, et si jamais le joueur quitte Leipzig à terme et devient un top joueur et qu'il est transféré autre part qu'au Paris Saint-Germain s'il ne veut pas revenir, bah, au moins le PSG touche ça comme avec Nkunku et Chelsea, tu vois. T'as un problème de micro, Nix, non?
Non, c'est juste que
Ah.
je l'avais coupé. Ok, on va enchaîner avec Barcola, qui, de ce qu'on a entendu, les news, on sait pas, on sait jamais si c'est vrai ou pas, mais il y a plusieurs sources qui le disent. Luis Enrique veut absolument Barcola. Est-ce que pour vous, c'est une obsession, entre guillemets, qui vaut la peine, ou est-ce que le joueur n'a qu'une saison, et au final,
Une demi, une demi.
okay, ouais, pas vraiment une saison pleine? Et est-ce qu'il n'y a aucune vraie garantie sur ce que le joueur il va donner, ou est-ce que ce que vous avez vu est tellement fort que ça vaut la peine de le prendre tout de suite avant que l'année prochaine il coûte 60-80 millions?
Il a une demi-saison, Nick. C'est un Bosch. Le Bosch le fait pas jouer en début de saison et c'est vraiment à partir de Laurent Blanc qu'il commence à avoir des titularisations.
Ça me rappelle un titulaire qui porte le numéro 7 au Paris Saint-Germain d'ailleurs. Donc j'enchaîne.
Alors, je suis pas fort au niveau des chiffres, mais moi ça me rappelle beaucoup tout ce que toute l'emballade qu'il y avait sur Ekitike l'année dernière.
Oui aussi.
C'est voilà. C'est mais après peut-être qu'il est très bon. Hein. Peut-être l'acheter pour le prêter et pas forcément pour le rapatrier, juste pour pouvoir le revendre, faire un deal avec Lyon ou si jamais tu le revends, tu leur donnes un pourcentage à la revente et si jamais tu le prends, tu leur redonnes un petit bif, etc. Enfin, tu peux t'arranger avec Lyon, le prêter un an, peut-être qu'il peut exploser, mais c'est pas parce que t'as fait 6 mois à un bon niveau et que t'as fait un bon match contre Montpellier que tout à coup t'as réformé le football, quoi. Il y a un moment, faut se calmer. Je vois tous les commentaires, tous les trucs, il y a une emballade sur ce joueur qui est complètement disproportionnée par rapport à ce qu'il a accompli. S'enflammer contre Montpellier, il y a combien de joueurs qui l'ont fait si on regarde les 10 dernières années? Amusez-vous à faire la liste et vous verrez qu'il y en a pas mal qui n'ont rien fait d'autre dans leur vie, quoi.
Toi, tonton, t'as l'air un peu plus optimiste sur le dossier.
Différent, parce que faut dire ce qu'il est, Luis Enrique, il cherche un ailier droit et pour le coup, il nous a soumis un peu sa liste. On a entendu parler de la piste Jérémy Pinault aussi, qui est lui aussi un ailier droit dynamiteur, qui dribble beaucoup. Et à la différence, c'est que Bradley Barcola, lui, il connaît la Ligue 1. Pour le coup, il est français, formé. Il répond aussi à la problématique de former en France, tu vois. Et vu l'âge auquel on récupère, on peut essayer de magouiller l'UEFA et l'inscrire dans la liste des joueurs formés, post-formés au club à terme. En soi, il a le profil que demande Luis Enrique. Et moi, je me dis que si cette piste est évoquée, c'est peut-être parce que tu comptes le mettre en concurrence avec Asensio et Lee Kang-in, qui peuvent tous les deux jouer au poste d'ailier droit. Et peut-être que Bernardo Silva serait plus rapatrié au milieu de terrain à côté de Bernardo et Ugarte.
Il y a un moment où j'ai envie de t'interrompre, là, tonton, si je peux me permettre. Ouais. C'est bien d'effectivement, comme tu le rappelles, hein, on a pris Lee Kang-in qui a tout du profil remplaçant, qui peut jouer à tous les postes offensifs, que ce soit à droite, au centre, à l'ouest, à l'est, au sud et au nord. On a Asensio qui, lui, est un peu plus limité au niveau des options, mais grosso merdo, qui va jouer dans cette zone, mais clairement qui ne vient pas pour un titulaire. Tu parles de prendre encore une fois un remplaçant qui machin, qui bidule, etc., etc. C'est bien joli tout ça, mais quand est-ce que tu t'occupes des remplaçants? Des titulaires.
Des titulaires, mais justement, j'allais venir. L'avantage, c'est moi, de ce que je vois en fait des recrues, il n'y a pas de joueurs qui sont fixes. C'est des joueurs qui sont plutôt polyvalents. Je vois Lee Kang-in, il peut jouer à gauche, il peut jouer 10, il peut jouer à droite. Je vois Bernardo, il peut jouer au milieu, il peut jouer sur l'aile droite, il peut jouer 10. Je vois Asensio, il peut jouer faux 9 en plus de jouer ailier droit. Mais à un moment aussi, je me dis juste que. Oui, c'est bien beau de recruter les titulaires, mais à un moment, on va mettre les choses à plat. On n'aura pas Mohamed Salah à ce poste-là, on n'aura pas Bukayo Saka à ce poste-là. Et à un moment, les top pistes, elles sont très rares. C'est un poste qui est super rare. Et Bradley Barcola, il est droitier, ailier droit. Et en fait, il correspond à un profil qui se fait de plus en plus rare dans son secteur de jeu. Donc moi, je me dis, peut-être qu'en fait, Luis Enrique, il se dit pas « je pars sur un schéma définitif » parce que c'est sa manière de penser. Et comme Guardiola, il a envie d'avoir des joueurs polyvalents parce qu'au moins, il peut s'adapter selon les schémas et les adversaires en face. Et il se dit pas « moi, je pars sur un 4-3-3 toute l'année où Asensio sera le titulaire et Barcola sera le remplaçant au poste d'ailier droit ». Je pense qu'il se dit « si je prends des joueurs qui sont polyvalents, je m'offre vachement plus d'options que ça en fait ».
Ouais, sauf que la polyvalence de Barcola, il est capable d'être à droite, il a montré qu'il pouvait aller quelques fois à gauche, mais encore une fois, le mec a fait 6 mois.
Tu le recrutes pas.
Non, mais je le rappelle, et c'était exactement le même argumentaire. Ekitike avait plus fait à l'année dernière avant d'arriver au Paris Saint-Germain que ce que Barcola a fait avant de venir au Paris Saint-Germain. Et de la même manière l'année dernière, et tout le monde nous cassait les oreilles, il faut prendre Kefren Thuram parce que Kefren Thuram il reste à Nice et en fait personne ne veut de lui. Il faut prendre Ekitike parce que Ekitike c'est peut-être la bonne pioche, c'est peut-être celui qui peut grossir, etc. etc. On a vu ce que ça a donné. Il y a un moment où ces joueurs, ok, tu le prends, tu le prêtes si tu veux et tu fais un deal avec le club parce que peut-être tu ne le récupéreras pas. Parce que tu le regardes au niveau de ses appuis, oui, il dribble, mais est-ce qu'il dribble si bien que ça? On en est loin. Il est capable de courir balle au pied, ça, oui, il le fait, mais est-ce qu'il a les choix toujours les plus intelligents? Ça reste à démontrer. C'est un joueur qui a fait un grand match et qui a fait 6 bons mois. Alors oui, en 6 mois, il est, je crois, à 9 passes décisives, 5 buts, etc., etc. La belle affaire, les surchauffes, ça arrive, ça existe. Encore, les arguments que tu viens d'utiliser, c'est exactement ceux qui étaient utilisés pour Ekitike la saison dernière. Et on nous rabattait en permanence les oreilles avec Khéphren Thuram, blablabla. Et on a vu pour les deux joueurs ce que ça donnait. Donc à un moment, ces arguments, oui, attention, c'est la pépite française qu'il ne faut pas louper, machin, bidule chouette, etc., où tout le monde s'enflamme parce que tu as un mec qui est en train de faire le kéké pendant, comme ça en Ligue 1 pendant une période, il faut vite l'acheter, etc., etc., ben, faut voir ce que ça donne. À un moment, on est le PSG, on a le droit d'avoir un petit peu plus d'exigence. Et un mec qui a montré qu'il était bon pendant 6 mois avec un coach qui est Laurent Blanc, mais qui n'était pas capable de s'imposer avec Peter Bosz, qui est un coach qui justement demande un peu plus de jeu, bah moi, je demande à voir. Alors après, si Henrique le veut, bah qu'Henrique le prenne. C'est qu'a priori, il sait l'utiliser. Mais moi, je ne vais pas participer à l'emballade commune sur un joueur qui a fait 6 bons mois.
Ce n'est pas une histoire d'emballade commune, Draya. C'est que la différence avec Ekitike, c'est que déjà, s'il est recruté, il répond à un besoin. Ekitike, déjà, le problème, c'est qu'on l'a recruté. Attends. Mais Ekitike, ce n'est pas un neuf.
Voilà, mais oui, déjà, je ne dis pas le contraire.
Déjà, tu as perdu. Ekitike n'est pas un neuf, c'est un faux.
Non, je n'ai pas perdu, j'ai gagné de base.
C'est que déjà, il a été recruté par Christophe Galtier et pas par Luis Enrique. Ça fait quand même une énorme différence de coaching.
On est d'accord.
Et ensuite, je suis désolé, le problème d'Ekitike, c'est que déjà, son profil a mal été perçu. Tout le monde s'est dit, il est grand, il va être neuf dans la surface. Alors que c'est faux. C'est faux. Ne me dis pas qu'il y avait une emballade sur Ekitike. Ekitike, je disais que c'était un mec qui joue demi-espace gauche et plus faux neuf. Donc à un moment, le problème d'Ekitike, c'est que déjà, il répond pas à un besoin quand il est recruté parce qu'il joue dans le demi-espace gauche. On a déjà Neymar et Mbappé. Là, Bradley Barcola, on a besoin d'un ailier droit. Il est lié droit, donc il répond à un besoin. Donc forcément, quand un recrutement répond à un besoin, il est d'autant plus pertinent que si ce n'est pas le cas. Pourquoi Di Maria réussit mieux que Messi au PSG? Parce que Di Maria, quand il est recruté, il répond à un besoin. Messi ne répond pas à un besoin.
Quoi le poste de Ikangin, déjà?
Ikangin, il est ailier gauche ou ailier droit.
Voilà. Et ensuite de ça, encore une fois, on a besoin du titulaire au poste. Alors après, j'ai vu passer pas mal, etc. Bernardo Silva a joué au milieu sans, on n'en sait rien, parce que Bernardo Silva, il peut aussi bien jouer ailier droit que milieu, que ailier gauche, que, etc. Il peut jouer à tous les postes. Donc pour moi, si tu veux, à l'heure actuelle, ce dont on a besoin, c'est Bernardo Silva. Et ensuite de ça, on a le remplaçant qui s'appelle Lee Kang-in. Puis voilà, c'est tout. Il n'y a pas besoin d'en rajouter encore un remplaçant pour se faire encore un listing de remplaçants qui n'en finissent pas. Okay. Un listing de remplaçants qui n'en finissent pas. On a besoin du titulaire. Le remplaçant, on l'a déjà. Et après, peut-être que c'est la pépite, peut-être que c'est etc. ce qui est annoncé. Mais ce joueur, achetons-le si on veut, mais dans la logique de le prêter, voir s'il confirme ses 6 mois sur une saison. Et après, on verra pour faire Mumuse. Parce que les emballages ne vont pas être de Ligue 1. Attention, il y a Dark Vador.
Ah non, mais en même temps,
on ne comprend pas ce qu'il dit quand Dark Vador il parle.
Ah, moi, j'ai tout compris. Il a dit que c'était trop long. C'était trop long. Et je suis d'accord
bien,
avec.
J'aime bien m'étendre.
Barcola, juste pour clôturer le dossier, vous avez eu 2 questions là-dessus que j'ai vues dans les commentaires. Je vais chacun vous en poser une. Répondez brièvement qu'on clôture ce dossier. Déjà, Dryas, on t'a dit Barcola ou Cherki?
Barcola quand même.
Ok, et Tonton, on t'a dit, vous en pensez quoi de la piste de Huawei, je sais pas comment
c'est. Huawei, de Montpellier, ouais.
En concurrence avec un autre neuf.
Bah, en soi, si tu as un top 9 et que lui, il est le remplaçant et qu'il vient gratouiller des filles, c'est très bien, je dirais Huawei, lui, il a monte. Tu citais Montpellier? Là, le match où la Cazette, il a mis un quadruplé là, contre Montpellier, bah, Elie Wahi, il a mis un quadruplé contre Lyon, mais personne s'en souvient parce que, manque de peau, la Cazette a mis le quintuplé. Elie Wahi, si c'est un attaquant qui vient dans la rotation et que tu as ton neuf de haut niveau titulaire, moi, ça ne me pose pas de problème. Après, si tu me dis qu'Elie Wahi, c'est la future pépite sur laquelle on doit tout miser et mettre tout l'argent, là, je dis que ce n'est pas la bonne idée et que le palier Montpellier-Paris, va falloir se mouiller la nuque pour lui, tu vois. Mais sinon, si tu me dis qu'il est remplaçant et qu'on a un vrai neuf de haut niveau titulaire, moi, ça ne me pose pas de problème en soi, tu vois.
Ok, bon, on va enfin clôturer ce dossier Barcola. On va passer au prochain sujet qui concerne encore Hugo Ekitike, qui pourrait être utilisé dans une transaction pour récupérer Vlahovic à la Juve. Est-ce que pour vous, ça réglerait 2 problèmes en même temps, on se débarrasserait, entre guillemets, parce que je sais que les gens, ils n'aiment pas que tu utilises le mot débarrasser sur la chaîne, d'Ekitike et en même temps récupérer Vlahovic pour un prix inférieur à son prix sur le marché. Vas-y, Dries.
Bah oui. Oui, si c'est l'opportunité de faire baisser le prix de Vlahovic, il faut foncer. Après, pour Vlahovic, il y a la problématique de la pub Belgique qui est un petit peu agaçante, qui est une petite musique qui... T'as l'impression d'entendre une fausse note. Mais on a tellement besoin d'un œuf cohérent que c'est un risque que je prends. Si Ekitike, qui concrètement, on a, peut-être qu'il explosera, hein, peut-être qu'il sera la promesse qu'il était, mais moi, j'y crois pas. Et en plus de ça, il ne le sera, à mon avis, jamais au Paris Saint-Germain. Si tiens, il y a tonton qui se fait un petit Sky. S'il y a moyen de faire baisser la note, bah ouais, je fonce clairement.
Là, tonton.
Concernant Ekitike, moi ce que je disais, si on essaie de le vendre là, on est un peu perdant parce que on l'a payé presque 40 millions d'euros, toute option comprise. Le mec a fait une mauvaise saison. Bon, je ne vais pas revenir sur les éléments qui ont fait sa saison, on en a suffisamment discuté sur la chaîne. Le conseil là, tout de suite, il n'est pas au niveau. Seulement, là, si tu t'amuses à le vendre là, sa valeur, elle a tellement chuté que tu fais l'une des pires opérations marketing commerciales que tu veux de l'histoire. Alors que si tu le prêtes un an ou deux avec option d'achat ou sans, et que derrière, ça te permet de le relancer pour mieux le vendre, c'est une meilleure idée. Seulement, si personne n'en veut et que tu dis que l'utiliser pour échanger avec Vlahovic ou Randall, parce que j'avais aussi entendu l'option l'échanger avec Randall Kolo Muani à une époque, ça peut avoir du sens si tu ne sais pas quoi faire du joueur. Donc en soi, avoir Ekitike qui peut te permettre de faire baisser la valeur marchande de l'attaquant que tu cherches pour la saison prochaine titulaire, si tu n'es pas capable de le prêter ni de le vendre à un bon prix, c'est peut-être la meilleure option qui reste en fait.
Deux objections, tonton. Ekitike qui fait une saison, qu'est-ce qu'il dit ? Alors, je ne dis pas que s'il fait une saison, s'il retourne dans un club, alors pas forcément à Reims, mais un club intermédiaire, on va dire, je ne pense pas qu'il va forcément perdre de la valeur qu'il a aujourd'hui. Mais qu'est-ce qui nous permet de croire que Ekitike va retrouver une valeur un jour de 40 millions ? À mon avis, rien n'est sûr à l'heure actuelle. Mais vraiment, on n'en est pas du tout sûr. Donc à partir de là, tu vois, face à un joueur, il y a tellement. Alors je sais, on était tous l'année dernière. Enfin, peut-être pas moi. Moi, dès le début, je l'ai pas aimé. Mais bon, d'une manière générale, je vais le mettre dans l'eau.
Je me rappelle, tu le comparais à Guillaume Waro. Ouais.
Voilà, je vais le mettre dans l'eau parce que c'est plus simple. On était tous à dire, de toute façon, c'est une bonne affaire. Il peut que progresser. On le revendra. Non, la douille, là, elle est là. La douille, elle risque de toute façon rester. Et je pense que le bénéfice-risque, c'est-à-dire la possibilité qu'il fasse un prêt et qu'il soit pas bon dans un club, parce qu'on sait que c'est un joueur qui a des exigences et donc ça peut mal se passer avec le coach, et il arrive dans un club, je ne sais pas si c'est arrivé par la petite porte, je ne sais pas si c'est dans son mindset d'être capable d'arriver par la petite porte, et donc ça peut mal se passer et il peut encore perdre en valeur. Sinon, il peut confirmer, mais juste confirmer et avoir la valeur qu'il a aujourd'hui. Et la probabilité que tout à coup, il fasse une sublime saison, qu'il revienne à 45 millions pour qu'on puisse le vendre, c'est une prise de risque. Et s'il y a moyen de s'en débarrasser, de couper court à ce qui a été une grosse erreur de casting et de le faire tout de suite, moi, je fonce.
Pas tout à fait d'accord avec ce que tu dis, mais j'entends.
Ok. Par rapport à ce que vous disiez, on a une question dans le chat qui est très pertinente, qui concerne le cas Ekitike et d'autres cas sur les jeunes. On a vu que Chelsea a racheté Strasbourg. Chelsea qui vient de changer de propriétaire il n'y a pas si longtemps que ça.
Ils ont
déjà racheté Strasbourg. Ils ont déjà acheté un joueur qu'ils ont prêté à Strasbourg. Et justement, ils envisagent d'acheter le 9 de Montpellier dont on parlait tout à l'heure et de prêter à Strasbourg. Donc, encore une fois, Chelsea, en un an de nouveau propriétaire, a déjà réussi à régler ce problème de club satellite. Et nous, on continue à acheter des parts dans des clubs, je ne sais pas pourquoi. Mais on n'a jamais un club où on peut envoyer nos joueurs. Donc, comment vous pensez du travail du Paris Saint-Germain sur ce cas-là, personnellement ?
Que le PSG a fait semblant de bosser sur le dossier. Je veux dire, je suis désolé, mais quand ils sont arrivés à quoi ? En 2011, 2012 au Paris Saint-Germain ? On est en 2023. Attends, 2023 ? Faut arrêter de se moquer de la gueule du monde. C'est que les mecs, ils n'ont pas vraiment envie. C'est juste. En fait, c'est plus des mots, c'est de la communication. Parce que, me dis pas que c'est impossible aujourd'hui, Bournemouth, ils ont racheté Lorient. Chelsea, ils ont racheté Strasbourg. C'est qui déjà l'autre club de Ligue 1 là, qui appartient à un club anglais ? Il y en a un autre là, dans le lot. Il y a un autre club de Ligue 1 aussi qui a été racheté et qui est devenu encore un sous-fifre. Il y en a plusieurs. Mais à un moment, quand tu vois que la Ligue 1, et même en dehors, il y a plein de clubs qui font 10 000 courbettes pour devenir la propriété d'une autre grosse firme, c'est juste que le PSG n'a pas fait ce qu'il fallait pour. Je suis désolé.
Et tu peux pas me dire. C'était 3.
Je veux dire, voilà, 3 qui appartient à Manchester City, exactement, merci le chat. Voilà, je savais bien qu'il y en avait un autre, tu vois. Donc, à un moment, quand tu vois le partenariat PSG-Braga, mais qui se permet de vendre Vitinha à l'OM, mais moi, je me dis qu'en fait, les mecs, ils font tout mal jusqu'au bout. Et ils font semblant, encore une fois, de faire le travail pour dire qu'ils le font. Parce que c'est pas normal que Chelsea, ils aient une vitesse Arnhem, ils aient en plus Strasbourg, ils ont aussi un autre club en Belgique. Et là, en un an, ils rachètent Strasbourg avec un nouveau propriétaire, alors que nous, ça fait 12 ans qu'on a un propriétaire, ça fait 8 ans qu'on en parle, mais on n'arrive pas à le faire. Je pense juste qu'en fait, le PSG fait semblant de taffer sur le dossier, il ne le taffe pas sérieusement. Parce que si tu voulais vraiment le taffer, tu chopes un club en Suisse. Tu as raté la Suisse, bah, tu vas en Belgique, tu rates la Belgique, tu vas aux Pays-Bas, tu rates les Pays-Bas, oui, tu vas au Portugal. Bah,
on en a un club là-bas, je crois que c'est FC Nyon, si je ne me trompe pas.
Bon, on est censé avoir des parts minoritaires chez Braga. Ça se voit même pas, ça se voit même pas, parce que finalement, leur crack Vitinha, ils préfèrent aller à l'OM. Et on les aide en plus à faire la transaction. Donc à un moment, enfin, Antero Henrique s'occupe de la transaction, donc c'est encore mieux, tu vois. Donc je me dis que justement, en fait, le PSG, il le fait pas ce taf. Il fait semblant de le faire, mais il le fait pas. Parce que s'il l'avait fait avec les moyens dont il dispose depuis tout ce temps, ça serait réglé.
Okay, bon.
Ça, c'est culotté de ta part, Dryas.
Bon. On va passer.
Ah bah non, attends, je peux répondre.
Vas-y, t'as pas parlé.
Déjà, moi, le truc que j'aimerais dire avant de vraiment répondre à cette question, c'est quand même ce qui est vraiment déconnant, ce qui est vraiment, vraiment déconnant, c'est que des clubs soient propriétaires d'autres clubs. Il y a un moment, on est censé être dans un truc d'équité sportive où les clubs s'affrontent, etc. Et finalement, tu te retrouves avec des clubs, et puis tu te retrouves même avec des clubs qui appartiennent aux mêmes propriétaires, qui sont dans la même compétition. C'est pas grave, je t'en passe et des meilleurs. Et maintenant, on est dans des espèces de petits arrangements qui veulent plus rien dire. Et j'ai juste une question à poser. Il est où le sport là-dedans? Parce qu'à la base, le foot, c'est quand même un sport. Voilà, donc je voulais dire ça. Et sinon, le truc que je voulais dire, parce que Tonton a dit l'essentiel, même si... Qu'est-ce qu'il est long.
Quel culot, même moi, je ne l'ai pas permis.
Et le truc que je voulais dire, c'est qu'on avait un coach, un directeur sportif, qui d'ailleurs a fait du travail en sous-main, qui avait commencé à préparer ça. Et il a été viré avant de pouvoir finir ce travail. Pour mémoire, il avait viré l'équipe qui jouait en Gambardella. Je ne sais plus comment c'était. J'ai oublié le nom de l'équipe du PSG qui a été virée par Enrique avec un H. C'est pas les 19, c'était les. Voilà, les 19, ouais, en gros. Voilà. Et il avait complètement arrêté l'équipe parce qu'il avait prévu, il avait entamé, et à ce moment-là, on aurait été même les premiers en Europe à le faire. Mais il a été viré, c'est un projet qui est. C'est Kluivert qui a récupéré la patate chaude, je crois, et il l'a juste mis sous le tapis et ça n'a plus rien donné. Donc voilà. Donc il y a eu au niveau de la. Moi, déjà, sur le principe, je suis pas d'accord avec ça, mais au niveau de la direction du PSG, tout n'a été qu'incohérence dans la conduite de ce projet-là et de tout ce qui a suivi, mais un petit peu comme tout quand on parle du PSG et de sa direction sportive.
Ok, les gars, bon, petit rappel, vous êtes 343. Là, je vois qu'il n'y a que 77 likes. Alors, le ratio, il est archi pas bon. N'oubliez pas que si on tape les 500 likes avant dimanche soir, on vous offre un bon d'achat de 20€ sur le store Nike pour acheter votre maillot du Paris Saint-Germain. Là, ça peut couvrir le flocage. Moi, j'aime pas les flocages, mais je sais que certains d'entre vous aimez floquer vos maillots, donc ça paie déjà le flocage. On va enchaîner avec le côté tactique de l'émission, ça va être la minute tactique. Mmh. On va vous demander à chacun d'entre vous, avec l'effectif actuel, quel serait votre 11 de départ et comment serait votre animation offensive, défensive, etc. Qui veut commencer?
Il faut que je retrouve l'image que je t'avais envoyée.
Vas-y, moi, c'est bon, j'ai en tête.
Vas-y, tonton.
Moi, je pars du principe que Luis Enrique va essayer de jouer en 4-3-3 avec des meneurs de jeu excentrés, un 9 et un milieu à 3. Je pars pour l'instant sur cette base-là. Et avec les joueurs qu'on a là tout de suite, si je me fie un peu aux exigences tactiques et techniques de Luis Enrique, je pars du principe que Donnarumma, il est remis en question. Donc, comme il n'y a pas d'autre gardien pour le moment meilleur que lui au pied, bah, je garde Donnarumma, mais on a bien vu les rumeurs à ce sujet. À droite, je pars sur Hakimi parce que c'est celui qui répond le plus entre Hakimi et Moukielé au poste, techniquement parlant en tout cas. Je mets une défense à 4 et du coup, ce sera Marquinhos et Lucas Hernandez qui seront les titulaires de cette défense à 4 si tu te fies à ce qu'attend Luis Enrique techniquement de ses défenseurs. À gauche, c'est Nuno Mendes, ça ne bougera pas. Là, en l'état des choses, le milieu à 3 il sera composé de Ugarte en 6, de Verratti en 8 avec Warren, Zaïre Emery parce que c'est les deux qui sont le plus complémentaires. Non, mais vas-y, t'as le droit de pas être d'accord, tu donneras le tien après, tu mettras Carlos Soler, Fabian Ruiz et Vitinha au milieu et on rigolera tous ensemble. Et dans l'attaque à 3, du coup, parce que je suis avec les joueurs qui sont là et ceux qui ne sont pas encore arrivés, bah, je ne peux pas les citer. Ah oui, mais tu veux quoi que j'invente des joueurs qu'on n'a pas? Ah oui, mais vas-y, dis-moi, moi je fais ma carrière FIFA et je te dis les joueurs que j'ai mis dans ma carrière FIFA, si tu veux. Mais à un moment, je fais avec les joueurs qu'on a.
Ce qui est bien, c'est que je vois que je suis pas en 2G. Il a bien voilà.
Mais du coup, vu que je suis avec les joueurs qu'on a et que je ne peux pas inventer ceux qu'on n'a pas, bah, actuellement, le 4-3-3, je mets Neymar en faux 9, Mbappé à gauche et Asensio à droite. Parce que pour l'instant, je ne peux pas faire plus.
Alors ouais, la raison du truc, c'est le Ugarte et Verratti ensemble.
Alors non, j'ai dit Ugarte en 6, un double pivot, Verratti, Warren, Zaïre-Emery.
Ouais, mais ça veut dire Ugarte et Verratti ensemble, en fait. C'est ce qu'on a vu, parce que Verratti monter au-dessus du ballon et ne pas être accroché à la jupe de celui qui est à côté de lui, c'est quelque chose qu'on ne connaît pas. Et c'est un poste qu'il ne sait pas tenir, et on a vu, et il serait tout le temps à côté, et c'est pour ça que j'ai eu un petit walker. Mais tu vas avoir ton walker quand j'ai annoncé ma composition, n'est-ce pas, avec l'effectif actuel. Alors en charnière, je change un tout petit peu par rapport à la dernière fois, je vais mettre effectivement Skriniar et Hernandez, hein, un grand duo de 100% OP physiquement, hein, ils sont connus pour ça. À gauche, je vais mettre Nuno. Alors Nuno, il aura une responsabilité particulière, c'est-à-dire qu'il devra autant penser à défendre qu'à attaquer, parce que de l'autre côté, il y a Hakimi. Comme à droite, bah, on est très très faible et on n'a peu, pour ainsi dire, personne, Hakimi aura une très grande responsabilité offensive. Et ça devrait être compensé avec Nuno, et du coup, tu pourrais te retrouver parfois un déséquilibre, une défense qui serait à 4, mais qui pourrait pivoter pour être un peu à droite. Ça sera au jugé en fonction du match. Celui que je mets en 6, le seul qu'on a dans l'effectif, alors bien sûr, Enrique ne le prendrait pas parce qu'il ne peut plus le piffrer, mais celui que je mets en 6, le seul qui correspond à la manière avec laquelle veut jouer Enrique, ben c'est Fabián Ruiz. Il n'y en a juste pas d'autre dans l'effectif. Il ne sait pas jouer avec un 6 autre que de ça. Le seul qui se rapproche un tout petit peu de près, de loin, de travers, de côté à Busquets, dans l'effectif, c'est Fabián Ruiz. Et donc, je mets Fabián Ruiz en 6 et je mets Ugarte en 8. Alors, c'est un 8 un petit peu particulier, c'est un 8 un petit peu à la De Rossi. À De Rossi, quand il était avec Pirlo, voilà. Ou quand Pirlo était avec... il est en Ugarte, c'est le 8 qui est là pour défendre, en sachant que le 6 a une très grande liberté et est vraiment le quarterback de l'équipe. De l'autre côté, je demande à Vitinha, et Vitinha, je lui demande de faire du putain de déplacement en fonction. Parce que Vitinha, il va devoir occuper le couloir droit. C'est-à-dire, Hakimi ne va pas pouvoir s'en occuper tout seul, et Vitinha va devoir monter. Donc, on n'est pas sur un milieu à deux. Ruiz ou Garte est sur la même ligne. On est clairement sur un milieu à trois. On a Vitinha qui est légèrement plus avancé, avec des responsabilités pour pousser et se projeter devant. Et on a Ugarte qui est en chien de garde, et on a vraiment Ruiz qui est en mode quarterback. Et alors là, vous allez tous m'adorer, parce que il n'y a pas d'autre solution. Il n'y a pas d'autre solution, parce que moi, en fait, je passe sur un 4-4-2. Hein, je passe sur un 4-4-2 en losange et me manque la pointe haute. Parce qu'au niveau offensif, bah, pour moi, il n'y a pas d'autre solution. Tu mets Solaire. Tu mets Solaire en 10. Mais le truc qu'il faut savoir pour Solaire, c'est que Solaire, déjà, la saison dernière, c'est le milieu le plus efficace. Mais en plus de ça, il était coaché par un certain... comment il s'appelle déjà, la galette? Ouais, voilà, par une certaine galette. Et que, ah, oh, tu le fais pas aussi bien que moi, tonton. Faut que tu travailles pour moi.
Non, mais t'as pas le droit de prendre
haut. Je t'ai laissé terminer. Solaire, il a été utilisé n'importe comment. Il a jamais été placé en 10 là où c'est un poste où il est capable de briller. Encore une fois, donnez-moi Bernardo Silva. Je fais pas du tout la même compo, mais je te mets Solaire en 10, qui sera là tout simplement pour être la transition entre le milieu et l'attaque. Il est vraiment dans un rôle de 10, et une manière de 10 comme il l'était à Valence, un 10 un peu statique, mais mine de rien super efficace, légèrement devant, un peu axé côté gauche, qui se balade sur le front de l'attaque. On a Neymar en espérant qu'il soit capable d'être là. Et tout devant, on a le seul 9 qu'on a, hein, c'est Kylian Mbappé.
Le chat, il est pas trop d'accord avec ça, Z.
Mais de toute façon, je sais que j'aurai tout le monde contre moi sur Solaire, mais le truc qui me bouffe par rapport à Solaire, c'est que les gens le jugent par rapport à ce qu'a fait la galette. Mais juste, réveillez-vous deux secondes, prenez conscience qu'on avait un coach qui était, pour moi, il comprend pas le foot, tout simplement. Et on avait un joueur qui a été extrêmement utile à Valence. Enfin, vous êtes en train de dire que le joueur qui a été très utile à Valence, que Enrique, en plus, c'est très bien utilisé. Hein. Enrique, pour lui, Soler, il est sur le banc en Espagne, il le fait rentrer très régulièrement et il l'a très souvent utilisé en match. Donc, on parle d'un joueur qui est titulaire, pas titulaire indiscutable, hein, mais qui est titulaire de manière raisonnable en Espagne, qui était titulaire indiscutable à Valence et qui est, pour vous, une quiche finie. Bah, si. Si, c'est,
Lo siento, no acuerdo.
Pas titulaire, mais ça fait partie des joueurs qui jouent beaucoup.
Mais en même temps, pourquoi il a beaucoup joué, Solaire? À cause des absences qu'il y avait au milieu, Thiago était blessé. C'est à partir du moment où Thiago a été blessé,
il le faisait jouer en 10 quand il le faisait rentrer en Espagne.
Bon, tout le monde dit que c'est un peu, on vise l'Europa
Attends,
League avec cette
Fabien Ruiz
proposition.
en
Non,
mais il y a un
6
moment, il y a un moment où
mois.
si tu veux, quand t'entends les gens qui parlent, bah Fabien Ruiz, je suis désolé, enfin c'est limite le meilleur milieu cette saison. Mais quand t'entends les gens parler de Solaire au Paris Saint-Germain, t'as l'impression que le joueur, il a jamais rien fait. Donc après,
Ah,
oui,
moi, c'est pas ce que
je
je
suis
te dis.
d'accord, il est pas au-dessus
Moi, c'est pas sur
du
Solaire où je
niveau
suis pas
Europa
d'accord,
League, hein.
surtout.
On est d'accord. Si tu ramènes d'autres joueurs, encore une fois, je ne le mets pas sur le terrain. Mais faut arrêter de le juger comme si le niveau avait tout montré sous Fabien Galthié. C'est un joueur qui a bien autre chose et bien utilisé, il peut être bien plus utile.
Non, moi, je t'avoue que
Bon,
je suis
on
plus
va.
étonné par rapport à Fabien Ruiz 6, dans le sens où, quand on sait que ses faiblesses, c'est notamment le jeu défensif et le duel aérien, moi, je t'avoue que si tu m'avais dit qu'en 6, et t'aimes pas, tu m'avais dit, tu mets Paredes parce que c'est celui qui techniquement correspond à ce que Luis Enrique recherche en 6, j'aurais été d'accord si tu aurais mis Paredes avec Ugarte. Mais comme tu me dis que tu as mis Fabián Ruiz en 6 et Ugarte en 8, bah en fait, les positions elles vont presque être interverties entre les deux parce que Fabián Ruiz, c'est pas un vrai 6 et Ugarte, c'est plus un milieu défensif qu'un 8 qui va se projeter. Donc,
Alors,
c'est juste
là...
dans ce sens-là, tu vois, où j'ai mal
ouais,
compris ton équation, tu
j'entends
vois.
et je
Avec
vais y répondre.
Vitinha, que tu as dit qui justement va faire les tâches offensives, alors que cette saison, on a bien vu que c'est justement quand il était ben, plus amené à être offensif qu'il était moins bien parce qu'il jouait trop de manière
Je sais, je
horizontale.
sais, je sais.
Pour
Bah,
moi, tu
je
vois,
suis
si j'avais
d'accord.
dit, si tu m'avais dit Paredes 6, Vitinha 8 et Ruiz plus offensif, là, j'aurais validé ton milieu. Mais c'est
Alors,
fait de Ruiz le moins
j'ai compris.
offensif des trois où j'étais complètement en wow.
Je te réponds. Alors déjà, Paredes, pour moi, il le met jamais Enrique parce
Ah
que
non, il va être vendu. Il
non,
va être
non, mais
vendu.
parce que Enrique aime, et surtout pour son 6, il aime quelqu'un de calme. Il aime quelqu'un qui se maîtrise. Et à partir de là, Paredes, c'est tu peux prendre, il aurait pu jouer parfaitement comme il faudrait, que déjà de base, il est disqualifié parce qu'il veut surtout pas un mec nerveux, il veut au contraire un mec qui mène le tempo. Et pour Ruiz, bah si, Ruiz, il a été utilisé en 6 des fois en Espagne. Il a même été, quand il était à Naples, il jouait dans un milieu à 2, il jouait dans un milieu à 2 et il était 6 en fait à Naples.
Alors, je t'avoue qu'en Espagne, je veux bien que tu me dises quand, parce que je regarde régulièrement l'Espagne, et en fait, la concurrence au poste de 6, c'est Busquets et Rodri.
Et il le... Non,
Peut-être
mais...
que Ruiz a dû jouer 2-3 minutes en fin de match à ce poste pour remplacer parce que
Non,
Busquets était fatigué,
je te
mais moi,
parle de
j'ai
l'époque où il
clairement pas.
jouait. Je te parle de l'époque où il jouait, parce que ça fait quasi un an qu'il joue plus
Bah,
maintenant avec
oui, mais
l'Espagne.
parce que justement,
Ah,
c'était
peut-être, alors.
Luis Enrique ne voulait pas de Fabián Ruiz
Un peu.
au milieu en Espagne.
Bon, les gars,
Après,
alors, mais il
débat,
est juste
commence à être un peu long.
à Naples, par contre, clairement, il jouait 6.
Oui,
Et
à
si
côté
tu
de
veux,
Tambo Nguissa, ouais.
ben oui, ben c'est ça. Et si tu compares, en fait, avec Busquets, c'est juste le joueur qui s'en rapproche le plus.
Mais vas-y, dis ce que tu
J'en suffis. J'en
veux.
suffis. J'en suffis.
Ah, c'est toi qui as lancé la tactique, Nick, ça.
Oui, bah en plus, on n'a pas fini la tactique. Il y a un autre sujet tactique à aborder après, parce qu'on va dire, on va pas faire un live, on va vous parler que du mercato. On essaie de satisfaire un peu tout le monde. Côté tactique, il y a un élément essentiel qu'il faut qu'on aborde, ça va être la relance en transition. Qui est-ce qui va donner le tempo dans cette équipe? Pour la relance, est-ce qu'on va chercher Verratti, Hernandez, Marquinhos, ou est-ce qu'on va chercher Ugarte, qui n'est pas très très bon techniquement? Est-ce que ça va être Verratti qui va redescendre comme il a fait ces dernières années? Ou est-ce que, entre guillemets, il y aura Ugarte qui va rester protégé et on aura peut-être quelqu'un du style Mota un peu plus devant? Je ne sais pas, qu'est-ce que vous pensez de ce qui va se passer côté relance?
Vas-y, comment ça va?
Côté relance, à l'heure actuelle, on a juste pas l'effectif pour, en fait. Il y a Ruiz, hein. Ruiz, ça fait partie de ses qualités. Ça faisait partie de ses très très grosses qualités à Naples. C'est même avec cet espoir-là qu'on l'a recruté. Il l'a montré à certains moments dans la saison. Mais on sait que Ruiz Enrique, c'est pas l'amour fou. Pourquoi on n'en sait rien. Et t'enlèves Ruiz, bah Marco Verratti, la relance, Marco Verratti, les passes en arrière, Marco Verratti qui regarde, qui fait 25 touches de passe avant de passer la balle, c'est pas avec lui que ça vient. Vitinha est censé pouvoir le faire, mais Vitinha était censé pouvoir le faire dans un milieu à deux à Porto. C'était pas la même organisation. C'était Vieira à côté de lui, je crois, qui avait beaucoup plus de responsabilités, qui était beaucoup plus capable de se projeter, qui lui offrait beaucoup plus de possibilités de passe. Là, à qui fait la passe Vitinha? En plus, on aura toujours les deux devant, qui pour l'instant sont encore là, qui vampirisent les intentions. Les transitions, à l'heure actuelle, t'as pas. Enfin, je suis un peu sévère, hein, mais j'en vois pas.
Non, mais j'entends ton point de vue. Là, c'est vrai que Dreyer s'est soulevé une problématique qui est intéressante, c'est que c'est par rapport au profil de joueur qu'on a actuellement. Et moi, de ce que j'en vois, hein, si j'essaie de me fier, je me dis que le problème, c'est que si tu as Ugarte en 6, si tu joues contre Manchester City et que tu as besoin d'avoir un 6 qui rapidement joue en une touche de balle et casse le pressing, ce ne sera pas Ugarte. Ça, c'est Verratti qui sait le faire. Donc, en fait, j'ai plutôt l'impression que Verratti et Ugarte vont se protéger l'un et l'autre sur leurs points faibles, en fait. Tu vois. Je me dis qu'en fait, Verratti va être celui qui sera utilisé pour faire la rampe de relance parce qu'il est capable de casser le pressing et de rejouer rapidement en une touche, même s'il n'aime pas le faire. On sait que Verratti, il aime bien avoir 15 touches de balle et dribbler trois joueurs avant de faire la passe. Mais on sait que Ugarte, justement, il aura justement le jeu sans ballon que Verratti ne peut pas avoir, c'est-à-dire gagner des duels aériens notamment, parce que Marco Verratti, malgré certaines de ses qualités balle au pied, tu ne pourras jamais lui demander d'être bon, hein, de manière aérienne. C'est un moment, faut être concret. Mais seulement, ce que je me dis, au niveau de la relance, c'est ça, c'est qu'il manque un milieu. Et en fait, je me dis que tant que le mercato n'est pas bouclé, c'est encore compliqué de se projeter au niveau de la tactique. Et c'est pour ça que ben, moi, je suis parti sur, vulgairement, ce que fait plus Luis Enrique. Et que ouais, même si je sais que j'ai fait des choix qui ne plaisent pas, ben en même temps, j'en ai pas d'autres sous la main. Et tant que le mercato n'est pas clôturé et qu'il y a des profils qui sont manquants et qui n'existent pas au Paris Saint-Germain, ben c'est compliqué de dire ben, je vais jouer de telle manière et j'ai inventé le profil de joueur en attendant de le recruter, quoi.
Donc là, personne m'a convaincu sur la relance. Là,
Non, mais
là,
il y a...
vous avez aucune solution claire
Il y a...
pour la
Ben, il
relance
y
du
a
Paris
Verratti,
Saint-Germain.
quoi, c'est ça le problème.
Mais non, non, non,
et
mais
Verratti est trop seul.
Verratti, il le fait une fois de temps en temps quand il se projette, et puis il le fait pas tant que ça. Et cette saison, en plus, avec les deux devants, il le faisait pas du tout. Et les seules fois où il l'a fait, c'est quand Messi était absent. Et non, tu peux pas te reposer sur Marco Verratti pour ça. Ça demande des prises d'initiative qu'il ne prend pas, parce qu'il a tendance à revenir sur ses pieds, à regarder derrière, à faire trois tours sur lui-même avant de lâcher la balle. Après, il y a les centraux. Mais est-ce que Hernandez va retrouver son niveau? Parce qu'on sait que Marquinhos, par exemple, il y a 4-5 ans, était excellent au niveau des relances. Mais c'était il y a 4-5 ans. Depuis, il l'a plus jamais fait. Il avait un des meilleurs taux de succès. Mais depuis, il a un des pires taux. Et puis surtout, il ne les tente même plus. Avant des transversales, il en tentait énormément. Il n'en tente plus. C'était à l'époque ou juste après ou pendant avec Silva. Là, non. Alors, Hernandez, on sait qu'il peut le faire. Mais Hernandez, qui revient de ses blessures avec les genoux, est-ce que tu peux compter sur ça? Non. Et je suis désolé, pour moi, Marco Verratti, peut absolument pas. Si tu veux en trouver un qui pourrait, mais Enrique et lui ne peuvent pas se piffrer, c'est Fabian Ruiz. Lui, sait le faire. Mais bon.
En fait, là, vous êtes clairement en train de me dire que le mercato, il est très loin d'être terminé.
Mais
Là,
clairement,
avec ce que vous avez dit, comme ils
mais
ont
c'est
dit, les
des
gens, on
pistes.
est troisième en Ligue des Champions.
Mais c'est des pistes qu'on n'explore même pas, parce qu'il y a tellement de priorités ailleurs. On en a parlé. Comment tu vas occuper tout ton côté droit? Moi, là, encore une fois, je mets Solaire, c'est par défaut, parce qu'on n'a personne pour vraiment occuper le côté droit. Qui tu vas mettre en œuvre devant? On a encore énormément de pistes, et le 6, ou le 6, ou en tout cas le mec qui est capable de vraiment relancer proprement, bah c'est tu le verras pas cet été, quoi. Tu l'auras pas cet été, et tu auras encore des problèmes de transition, je pense.
Mais
Pas forcément.
est-ce qu'avec l'effectif qu'on a, on n'est pas obligé, parce que je vous ai entendu parler de 4-3-3 tout à l'heure, est-ce qu'on n'est pas quasi obligé d'avoir un milieu à deux?
Non, pas forcément, ça dépend comment tu l'animes. Dans le sens où, comme je disais, en fait, selon les recrues que tu vas faire, tu pourras justement te permettre certaines libertés. Parce que si tu joues dans un 4-2-3-1, tu peux le faire, mais il faut avoir justement les complémentarités pour le mettre en place. Et là, comme je disais, bah, il y a trop de manque dans cette équipe. On en parle depuis un moment. De toute façon, pour ceux qui suivent le podcast, ça fait 6 mois que je vous embête avec le 6 et le 9. On a le 6, il nous manque le 9. Mais à un moment, quand tu changes de coach et que tu changes d'animation, parce que Luis Enrique ne joue pas spécialement en 5-3-2 à la Galtier, ben, si tu veux lui donner les pleins pouvoirs et les clés du camion, ben, va falloir que tu recrutes des joueurs pour qu'ils puissent jouer dans son style de jeu, parce que sinon ça ne sert à rien. On fait le même constat dans un an, on dit que Luis Enrique c'est une grosse fraude et on a hâte du prochain coach. Donc si tu veux que Luis Enrique travaille un minimum, ben, tu dois lui recruter les profils dont il a besoin. Et ouais, le mercato à ce moment-là il est loin d'être terminé, à part si tu dis ben, tu restes sur les bases de Galtier l'an dernier et tu recrutes les manques pour Galtier l'an dernier, là on a presque fini. Mais comme on n'est pas sur le même coach, tu es obligé de faire avec ce que le coach te demande. Surtout que là, tu as demandé à un coach qui a quand même certaines idées de jeu et une certaine identité. Donc, si tu veux la respecter, bah, tu es obligé de prendre en compte son avis et de dire bah, si ces profils pour toi sont manquants, bah, on va essayer de les recruter pour que tu puisses mettre en place ton jeu. Sinon, ça ne sert à rien en fait.
Et très rapidement, il y a deux commentaires auxquels je voulais réagir. C'était Justine. Bah, si tu veux, moi, Marco Verratti, ça fait 5 ans que je dis qu'il pose un énorme problème au Paris Saint-Germain, parce qu'on ne sait
C'est juste
toujours pas où le faire jouer, que ce soit en 6 ou que ce soit en 8. Quand c'est en 6, et bah, il a pas une manière de défendre qui est adéquate, et quand il est en 8, eh ben, il se projette pas, il est incapable de jouer devant le ballon. Donc oui, ça a été un très bon joueur, même si cette année il sort une défense qui est cataclysmique. Marco Verratti, ce qu'il défend sur cette année, j'arrive même pas à comprendre, faut vous acheter des lunettes. Il fait une défense qui est une saison qui est cataclysmique, mais même dans les autres années, en fait, c'est un joueur, tu vois, on a passé notre temps à justifier que le milieu du PSG, c'était jamais Marco Verratti, mais c'était toujours les gens qu'on lui donnait. Il y a peut-être un moment, il va falloir retourner le problème et dire peut-être que le problème du milieu du PSG, c'est Marco Verratti, parce que construire un milieu avec Marco Verratti, bah, c'est très compliqué. Et si tu peux voir, il y a eu un moment Barcelone qui s'est genre enflammé pour avoir Marco Verratti, mais depuis, c'est lesquels les clubs qui s'enflamment pour avoir Marco Verratti? Parce qu'il y a un moment, il y a eu la rumeur Pep Guardiola. Hein. Pep Guardiola, il a pris le micro une semaine à l'air pour dire oh non, en fait, c'est pas vrai, je suis pas intéressé. Donc il y a un moment où Marco Verratti, il va falloir le regarder en dehors du filtre du supporter, parce qu'il est capable de faire des trucs dans la surface qui te faisaient vibrer il y a 11 ans. Quoi. Et sinon, je voulais réagir à Laurent. Mais Warren Zaïre-Emery, le mettre titulaire dès le début, avec les attentes qu'il va y avoir, c'est prendre le risque de le flinguer. Laisse-lui au moins 6 mois s'acclimater, etc. Et moi, j'y crois. Hein. Je pense qu'il peut gagner sa place au bout de 6 mois, surtout qu'il y a vraiment un chantier au milieu de terrain. Mais c'est prendre trop de risques de le mettre dès le début de la saison, en fait, pour moi.
Bon, je voulais attendre la fin du live pour le faire, mais on va le faire maintenant parce que vous êtes 500, donc on va profiter pendant qu'il y a tout le monde. Le gagnant, parce que vous étiez nombreux à participer, le gagnant du bon d'achat pour le store Nike, on va le trouver tout de suite. On va voir qui va gagner et vous allez me contacter en commentaire. Tirage au sort en live, comme ça il n'y a pas de truc bizarre. C'est ploufplouf.fr qui décide, c'est pas moi. Et d'accord. On y va, tirer au sort. C'est qui? C'est Hermès Bambella 7115 a été tiré au sort. Donc tu mets un commentaire en bas de la vidéo, pas dans le chat, avec une adresse mail pour te contacter. Sinon, on va revenir à... N'oubliez pas qu'il y a encore un bon d'achat à gagner encore. Si on atteint les 500 likes avant dimanche soir. Là, actuellement, vous êtes à... Je vous dis ça tout de suite, vous êtes à...
139.
143. Donc, il y a encore du chemin, les gars. Bravo, Hermès. On va enchaîner sur le live. De quoi on devait parler ensuite. La relance, c'est OK. Fin d'une équipe totalement dans la gestion. Parce qu'on sait que le Paris Saint-Germain, dans les années... qui ont précédé cette saison, ou même cette saison. C'est une équipe, une fois qu'elle a marqué son but, a tendance à gérer les matchs, et souvent, ça se passe mal derrière. Donc là, j'ai une déclaration de Luis Enrique qui dit « Sachez que je veux vous rendre fiers. Je veux vous donner le sentiment que votre équipe travaille, lutte, se bat, qu'elle joue bien au football, et surtout qu'elle joue chaque match pour obtenir des points sans jamais calculer. » C'est ces trois derniers mots qui m'intéressent. Ouais, c'est peut-être qu'il est dans la communication, mais sans jamais calculer. Et il a dit plusieurs fois depuis son arrivée, j'ai l'impression que c'est quelque chose qu'il a identifié comme problème au Paris Saint-Germain. Et ça fait vraiment plusieurs fois qu'il lui dit, est-ce que vous pensez que ça va être une équipe qui, peut-être un peu comme le Bayern, pas à ce niveau-là, mais une fois qu'il y aura 1-0, 2-0, va continuer à marcher sur l'adversaire 3, 4, 5, 6, 0. Ou est-ce que vous pensez que c'est juste de la com?
Je commence.
Comme tu veux.
Vas-y, je vais y aller pour une fois. Il y a un peu logiquement de la com, je veux dire, tu sais, quand t'es le nouveau coach, je vais pas m'amuser à ce qu'on ressorte toutes les confs de presse et les débuts des coachs, ils arrivent, tout est beau, tout est parfait, je veux dire, même Christophe Galtier, si tu l'écoutes, c'était Carlo Ancelotti quand il arrive au Paris Saint-Germain, donc à un moment, c'est intéressant de redescendre. Par contre, en revanche, c'est important de comparer les différents coachs aussi, et Luis Enrique, c'est pas Christophe Galtier et c'est pas Mauricio Pochettino, c'est pas un yes man. C'est pas un mec que tu vas engager et qui va dire « Oui, monsieur, vous avez raison. Oui, monsieur, vous avez raison. Et je vais dire ça devant la caméra. » Luis Enrique, tu fais un truc qui ne lui plaît pas, il va te le dire tout de suite. Au moins, tu vois, c'est bien. Nasser, il va trouver un peu à qui parler. Ça va un peu lui changer la donne par rapport au dernier coach qu'il a eu. Après, Luis Enrique, il est têtu. Il est très, 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 très têtu. Il est possible, en effet, que Luis Enrique arrive à insuffler son caractère et son mental à ses joueurs. Et c'est tout ce que j'espère, au fond. Seulement, au final, ça va dépendre, comme d'habitude, de l'épaisseur. C'est la longueur d'alès face à l'épaisseur d'alias, comme on aime bien dire en citant Lino. C'est, une fois de plus, qu'est-ce que Luis Enrique pourra faire quand il sera au Paris Saint-Germain? Parce que si, au final, on lui met la même laisse qu'on a sortie pour Galtier, Pochettino, Tourelle et tous les autres, ben, Luis Enrique, il fera ce qu'il peut. mais il ne fera pas plus parce qu'il y aura les bâtons dans les roues. Donc, si Luis Enrique, tu le laisses faire, je pense que la conférence de presse qui t'a tenue, elle a du sens. Parce que si tu le laisses faire, il a du caractère. Il en a dans le pantalon pour ceux qui aiment bien dire ça. Il a la grinta pour ceux qui aiment bien le terme. Il peut bien sûr amener ça à nos joueurs, mais faut le laisser faire et pas laisser la hotline Nasser, comme s'amuse à dire Dryas. C'est-à-dire que si un joueur... Exactement. C'est-à-dire que si un joueur qui est censé être un cadre, mais qui ne fait pas les efforts et que Luis Enrique décide de le mettre sur le banc, ben, si la hotline Nasser elle fonctionne, ben, Nasser, il faudra qu'il lui dise « Vous êtes bien sur ma messagerie, merci de vous adresser à Luis Enrique. Bonne fin de journée, au revoir. » Tac. Et voilà. Si ça se passe comme ça, il n'y aura pas de problème.
Dryas, avant de te donner la parole, je vais juste rajouter un indice là-dessus. En même temps, j'ai écouté la conférence de Pochettino à Chelsea et j'ai entendu les mêmes termes. Les deux, ils ont dit la même chose et qu'on sait ce qui s'est passé avec Pochettino à Paris. Pochettino, il a dit qu'il faut qu'on crée une famille et qu'on recrée un esprit d'équipe. Luis Enrique, il a dit exactement les mêmes choses. Donc, vu comment ça s'est passé la dernière fois avec Pochettino, est-ce que toi, tu vois une différence, Dryas ?
La différence, mais tonton l'a touché du doigt. La différence, c'est que là où, pour moi, Pochettino reste un bon coach. Hein. Son passage à Paris se justifie par d'autres choses aussi. Et mine de rien, en Ligue des Champions, depuis Emery, les quelques fois où on a fait des trucs qui étaient un peu cohérents, bah, c'était avec Pochettino. Et voilà. Mais pour en revenir, ouais, Enrique, il a toujours joué avec cette volonté d'être offensif, des fois au prix du cliché, c'est-à-dire faire la passe à 25 joueurs contre 5 joueurs dans la surface de réparation en ne faisant pas une seule frappe pendant une demi-heure. Il en est capable. Donc, il a une légitimité pour ça. Le bémol par rapport à ce qu'a dit Tonton, c'est ce qui s'est passé à Barcelone, où effectivement, il a commencé par vouloir taper du pied sur la table et il a été écouté pendant un temps. Puis à un moment, le vestiaire s'est révolté et il a fini par se coucher, quoi. Mais là, par contre, où Tonton a complètement raison, c'est-à-dire que même si on a un coach qui a des volontés offensives, s'il n'a pas le matériel pour, il y a un moment où il va se taper un mur de verre. Et il faut vraiment être conscient que des années de recrutement qui ont été faits, bon, on ne va pas dire n'importe comment, mais pas avec la cohérence en premier sujet, parce qu'on était vraiment dans des situations où j'ai peut-être été dans le cliché, mais ça se trouve, je n'ai même pas été dans le cliché, où tu mettais 200 millions sur la ligne avant et puis tu en mettais 8 sur la ligne du milieu, quoi. Et ça, tu l'as enchaîné, alors pas forcément avec ces extrémités-là, mais tu les as enchaînés plusieurs saisons, bah, ça t'amène aujourd'hui à avoir un effectif qui est profondément déséquilibré, avec un milieu de terrain qui est profondément sous-dimensionné, à la fois en qualité et en quantité, avec une ligne arrière où les meilleurs bah, étaient meilleurs il y a 5 ans et les autres s'illustrent beaucoup par le fait d'avoir eu des blessures avant. Et là, on a enfin un latéral gauche qui apporte pleine satisfaction. Le mec, il est encore blessé, il commence à y avoir de vraies préoccupations par rapport à son niveau et on n'a personne derrière. Et donc, on a tellement tout mis devant. Alors ben là, il y en a qui partent sur devant. On va voir ce que ça va donner. Mais Enrique, il faut vraiment être conscient qu'Enrique va se retrouver avec un effectif avec lequel il est très compliqué de construire. Des joueurs qui sont installés dans un confort. Alors peut-être, et il y a Riolo qui en parlait récemment. Des fois, il dit des choses bien. Des fois, il dit des âneries. Enfin, c'est ma lecture en tout cas. Mais peut-être qu'ils vont être moins dans le confort. Mais on va voir parce qu'on est le Paris Saint-Germain. Donc, c'est à la fois intéressant, intriguant, parce qu'on a un coach qui a une intentionnalité et qui a la légitimité pour la première fois pour l'avoir, mais on a aussi un club qui a ses défauts et pour l'instant, ils ne sont toujours pas résolus. Le 9 n'est toujours pas là. Le mec qui va occuper le couloir droit de manière proactive, que ce soit Bernardo Silva ou que ce soit quelqu'un qui est plus percutant dans le style, peu importe, mais ne serait-ce qu'une personne qui va pouvoir le faire. Tout à l'heure, on parlait du problème de 6. Qui va être le remplaçant de Nuno Mendes si Nuno Mendes est blessé? Parce que maintenant, il faut commencer à s'attendre à ce que Nuno Mendes soit blessé. Et donc, ça fuite partout et il ne va pas falloir attendre à ce que, même s'il veut être offensif, ce n'est pas pour autant qu'il est magicien, quoi.
Ok. Juste avant d'aborder le prochain sujet, j'ai vu un truc ce matin qui m'a fait plaisir. Parce que je ne sais pas si vous regardez les jeunes. Dans le groupe élite, il y a un certain Noah Limina qui a été placé dans le groupe élite. Et franchement, pour avoir regardé les jeunes l'année dernière, j'aime vraiment beaucoup ce joueur. Et franchement, j'ai hâte de voir s'il a un peu de temps de jeu. Parce que son profil est ultra intéressant. Il a réussi à avoir de l'impact, il a de la technique. Franchement, va lui prendre le ballon physiquement, il est costaud. J'ai hâte de voir ce que ça donne. Parce que vous voyez, tout à l'heure, on a parlé de El Shaddai. En fait, quand les jeunes, ils jouent au PSG chez les jeunes, Forcément, ils sont jeunes, donc ils jouent avec les jeunes. Mais en fait, il y a des certains, tu vois quelque chose. Tu vois quelque chose et d'autres, tu ne vois pas. El Shaddai, moi, la seule chose que je voyais, c'était sa capacité de relance. Mais dans tout le reste, j'ai toujours trouvé, à part le fait qu'il fait 2 mètres et truc, j'ai toujours trouvé moyen, je ne l'ai jamais trouvé exceptionnel. Mais il y en a, il y a des endroits où quand tu les vois, soit balle au pied, enfin, il faut avoir plusieurs choses. Mais dans certains secteurs, il y en a, ils sont grave en avance sur les autres. Et je me rappelle notamment Fadiga qui joue maintenant en Grèce, il manquait, il avait plein de lacunes, mais techniquement, il était exceptionnel. Et Nkunku, par exemple, il a eu plein de défauts au Paris Saint-Germain, mais techniquement, quand tu le voyais avec le ballon, tu voyais quelque chose. Il faisait des trucs, je sais pas ce qu'il s'entraînait avec des barres et tout comme ça. Oui, mais techniquement, tu voyais des choses.
Je pense qu'il est devenu maintenant.
Oui, mais tu voyais des choses. Il avait des choses qui montraient. El Shaddai, j'ai jamais vu ça. Par contre, je vous encourage
cette année. C'est dur avec El Shaddai. Arrête de le dire 3 fois.
Non, mais moi, je ne l'ai pas vu. C'est pas que El Shaddai. Par exemple, je sais pas, Garbi, je vois une capacité de percussion. Certes, à ce niveau-là, il a un truc, mais je ne vois pas beaucoup de choses chez Garbi. Je peux me tromper, mais il n'y a pas grand-chose qui saute aux yeux. Moi, je ne dis pas qu'il va avoir une mauvaise carrière. J'ai dit, chez certains jeunes, il y a un truc qui te saute aux yeux direct quand tu les vois. Et Lebina, vous allez voir cette saison.
Mais El Shaddai, juste pour prendre sa défense, moi, quand je le voyais, je me disais, mais putain, c'est dans 3-4 ans, c'est Upamecano, le mec.
Moi, je t'avoue que...
Moi, je le voyais comme ça. Hein.
Moi, ça dépend. Moi, je prenais le verre à moitié vide et moitié plein. Parce que techniquement, je me disais, le mec, il met une vitesse à sa génération, ballon au pied en tant que défenseur. Et quand je vois sa taille, c'est étonnant qu'il soit aussi bon techniquement. Mais il y a un truc, et je pense que Nyx, il va s'en rappeler, parce que ça, je l'évoquais déjà l'an dernier quand on en parlait dans les groupes. Il a tous les mêmes défauts que Kimpembe ou Upamecano, ce mec. Il est capable genre, de faire un très bon match. Et genre, ça s'est vu contre le Red Bull Salzbourg pendant la Youth League. Et là, d'un coup, genre, on ne sait pas ce qui se passe. Il a vu un oiseau dans le ciel comme ça.
Il est attaquant.
Et il y a but. Et tu vois, genre, il a trop cette capacité-là, El Shaddai. Mais en revanche, techniquement, par rapport à son gabarit et son poste, il est très bon. Donc le fait d'aller à Leipzig en successeur de Guardiola, c'est la meilleure chose qui peut lui arriver.
Mais complètement, parce que si tu veux, tu vois, quand tu fais la comparaison avec Upamecano ou avec. Je suis d'accord, en fait, pour moi, il me rappelle ou pas. Mais il me rappelle ou pas.
Et Kimpembe aussi, par rapport au côté, genre.
Mais c'est vraiment que ce côté-là, parce que techniquement, Kimpembe, à cet âge-là, c'était un peintre.
On est d'accord.
C'était un peintre. Mais voilà, il a. Je te trouve dur. Mais oui, c'est vrai que des jeunes sont intéressants. Il y a Ousni aussi, il faut voir ce qui va devenir. Il y a des jeunes qui... Mais le passage est toujours délicat. Et Rabiot...
Demande à Ouganda, Baïbek.
Mais même Rabiot l'a fait à 80%, mais ça n'a jamais complètement pris. Kimpembe, il l'a fait à 80% aussi, ça n'a jamais complètement pris. On ne s'est pas retrouvé avec un Kimpembe qui est devenu un patron indiscutable en défense, que ce soit à Paris ou ailleurs. On s'est devenu avec un Rabiot qui a eu des périodes de creux, qui est des périodes où ça remonte, etc. etc. Warren Zaïre-Emery serait peut-être la vraie pleine success story. On n'y est pas encore, mais il a tout pour l'être. Et faut se méfier aussi, voilà, avec ces emballades où tu as vu quelque chose chez le joueur et t'en as certains, t'as l'impression qu'ils valent rien, ils font des putains de carrières, t'en as d'autres, tu les vois et ils font rien derrière. Quoi.
Ouais, bah, le problème, c'est dans l'exploitation du talent, parce que là, le Paris Saint-Germain, il a quand même la possibilité, s'il gère bien les contrats et gère bien la post-formation, chose qu'il n'a jamais fait précédemment, et t'as quand même Zaïre-Emery, t'as Lebina. Et t'as, comment il s'appelle, qui est parti à Lorient, j'ai oublié son nom.
Emankari.
Ouais. Ces trois-là, moi, je vois quelque chose personnellement. Ces trois-là, s'ils sont bien post-formés, etc. Emankari, franchement, quand je l'ai vu jouer l'année d'avant aussi, c'était pareil. C'est un joueur, tu vois, il y a quelque chose. Comme il a dit, Basto, le problème au Paris Saint-Germain, c'est dans la post-formation. Ces joueurs-là, tu vois, Leipzig, ils arrivent à leur faire passer un cap après. Francfort, ils y arrivent. Nous, on n'y arrive pas. Mais ces mecs-là, tu travailles bien avec en post-formation, les trois. Tu les as au Paris Saint-Germain pendant 5-6 ans, tu as une équipe. Et comme ce qui nous fait défaut, par exemple au Bayern ou au Barça, tu vas avoir une génération de trois mecs qui ont l'habitude de jouer ensemble depuis 7-8 ans. Franchement, dans les grands matchs, ça fait la différence. Parce que les mecs, ils se connaissent sans même se regarder.
Ouais, mais le truc, c'est que t'es pas dans le même contexte.
Il y a
une problématique de contexte, Nyx. Tu me tiens ce discours, tu es à Leipzig. Ben oui. Mais t'es au Paris Saint-Germain. Tu peux pas être dans cette logique où tu vas lancer plein de jeunes, ou en tout cas, surtout tu vas en lancer deux. Tu peux pas en lancer deux, trois
par an. En même temps, Pas non, mais Zaïre Emery, tu vas commencer l'année dernière.
Tu as lancé
l'année dernière, fin de saison. Fin de saison prochaine, je vois déjà Zaïre Emery titulaire. Après, les Villas, tu le lances dans deux ans. Mais en attendant, ouais, ça, tu ne les lances pas tous la même saison. Tu vois ce que je veux dire?
Ça oui. Mais il faut y aller vraiment, vraiment. Tu vois, tu ne peux pas y aller comme Leipzig où, oui, effectivement, il y a une énorme concurrence, mais ils sont capables d'en lancer deux en même temps. Quoi. À Paris, tu ne peux pas le faire.
Ouais, mais après, Leipzig, c'est justement. C'est, la différence, c'est que Leipzig, tu as quand même le Bayern Munich dans leur championnat et c'est acté dès le début qu'ils ne vont pas être champions. Ce n'est pas la même chose. Eux, le but, c'est prendre un jeune que tu as acheté pas cher. Tu vas le post-former, tu vas même le faire évoluer. Et je pense que le meilleur exemple pour moi, c'est Christopher Nkunku. Christopher Nkunku, il arrive à Leipzig, c'est un numéro 8, c'est un milieu de terrain. Et Nagelsmann, il t'en fait un attaquant de soutien, un deuxième attaquant. Et aujourd'hui, bah, il a été revendu, mais genre 5 fois ce qu'il valait. Il a été acheté 18 millions, il a été revendu 60 millions.
Dis, tonton,
et encore,
tonton,
c'était close, tu vois.
Tonton, ce que je te dis, je suis d'accord avec toi. Ce que je te dis, c'est que tu ne peux pas faire la même chose à Paris. Et donc, ton rapport avec les jeunes ne peut pas être le même. Et sur cet aspect-là, avoir un club filial qui serait cohérent et avec lequel tu travaillerais de manière cohérente serait quelque chose d'éminemment positif pour ça. Parce que justement, à Paris, tu peux pas les intégrer de cette manière-là.
Tu ne peux pas les intégrer comme ça. Mais moi, par exemple, ce que je ferais au Paris Saint-Germain, c'est que chaque saison, il y a un Titi par ligne qui a du temps de jeu. Tu peux pas tous les faire jouer, mais il y en a un, tu le choisis au milieu de terrain, par exemple, Zaïre Emery. Devant, tu choisis Ousli. Parce que le fait d'en avoir plusieurs fait que tu n'arrives pas à les faire progresser. Parce que lui, il va gratter 3 minutes par là, lui, il va gratter 3 minutes par là. C'est mieux d'en avoir un seul dans cette ligne d'attaque, par exemple, dans cette ligne du milieu. Et tout le temps de jeu qu'il y a à gratter, c'est lui qui va le gratter. L'autre, s'il y en a un autre qui est plutôt bon, tu le prêtes comme on a fait avec Zaïre Emery et Carrie, il est parti à Lorient. Zaïre Emery, il est resté. Bah, tu fais Zaïre Emery rester dans la rotation avec les autres milieux. Comme ça, il aura du temps de jeu. Tu fais pareil en défense avec un latéral ou par exemple Sérif Naga qui est très bon et on a Ludo Mendes qui est tout le temps blessé. Je pense que c'est un mec qui serait intéressant à intégrer dans la rotation en défense. Mais tu ne mets pas plusieurs Titi dans l'équipe. Tu en as 3, 1 par ligne et puis c'est tout.
Non, soit c'est cohérent, mais après en soi, Nix, le problème c'est qu'avec les jeunes, tu ne peux pas tous les prendre sous le même prisme et dire que c'est universel, ils ont été bons en jeunes, ils sont bons en A. Être bon en jeunes et être bon en A, c'est deux choses différentes. Et là, je suis obligé de revenir sur des exemples plus passés, mais qui vont peut-être parler aux plus anciens. Mais quand tu prends la fameuse ligne, tu sais, où tu avais Baebek, où tu avais Onganda, où tu avais, comment il s'appelait l'autre, le troisième larron, là, qui était trop trop fort, apparemment, il était meilleur que
Coman.
Non, pas lui du milieu. Moi, je te parle un ailier attaquant, la jeune de France, là, qui était dans le centre de formation du PSG. C'était pas Ouganda, c'était pas Baebek, c'était le troisième. Là.
Ah, j'ai
le mec sur le sol, il était voilà, meilleur que Coman encore, apparemment, en jeune. Est-ce que ces mecs-là, aujourd'hui, en A, ils valent quelque chose?
Et non, les mecs en jeune,
ils pliaient tous Coman. Et le meilleur exemple encore que je peux donner, là, je parle encore aux plus vieux.
Coman, il avait le Titi dans.
Attends. Je vais en parler au plus cultivé footballistiquement. La fameuse génération 87 de l'équipe de France avec Ben Arfa, Menez, Nasri, Benzema. Le moins talentueux des quatre et le moins bon des quatre et celui dans lequel les trois autres se foutaient de la gueule, c'était Karim Benzema. C'est qui termine avec 5 Ligue des Champions et un Ballon d'Or? Donc voilà, c'est un moment. C'est bien de voir des jeunes qui ont beaucoup de potentiel chez les jeunes. Et c'est une réalité. Noah Lemina, il en a beaucoup chez les jeunes. Par contre, un rival confirmé dans l'équipe A, ça reste une autre chose. Et c'est important quand même.
Je vais aller dans le sens de tonton pour dire, tu vois, par exemple, tout à l'heure, tu es en train de dire, bah, tu as Nuno Mendes, et bah, si jamais tu as pris un Titi, etc. Sauf que Nuno Mendes, bah, tu t'aperçois que peut-être il peut être out pendant un mois. Et s'il est out le mois où ça ne compte pas et que tout à coup, tu es obligé de faire jouer un Titi qui n'a pas forcément l'expérience, qui n'a pas forcément le bagou, qui va se retrouver à jouer en Ligue des Champions, etc., où tu as une chance sur deux que ne serait-ce que mentalement, tu le flingues, c'est pas si simple que ça. D'intégrer des jeunes dans une équipe comme le Paris Saint-Germain où tu as une exigence, etc. C'est pas seulement, toi, c'est pas une question de seulement le combien tu vas en intégrer, du rythme où tu vas les intégrer, etc. C'est le contexte. Est-ce que tu as un contexte propice qui facilite l'intégration des jeunes? Et à Paris, tu n'as pas ça, mais de la manière qu'à Munich, tu n'as pas ça, de la manière qu'à City, tu n'as pas ça. C'est des clubs, le seul club qui est une exception, qui est presque une hérésie par rapport à ça, mais qui est particulier dans son rapport avec le centre de formation, c'est Barcelone. Mais quand tu vois que Barcelone, grosso merdo, ils ont fait ça, ils ont été exceptionnels pendant 6 ans. Ils ont eu une génération absolument dorée, mais avant ça, ils faisaient quoi, Barcelone? Et depuis, ils font quoi, Barcelone? C'est-à-dire que oui, tu peux tout baser sur, alors je sais plus, la Masia, voilà, tu peux tout baser sur avoir un centre de formation qui est OP et devenir un grand club, et etc. Mais là, tu es dépendant d'un délire générationnel de ouf. Et sinon, tu t'apercevras que les autres clubs n'y arrivent pas non plus, ou c'est pas si simple, et que de temps en temps, tu as un qui est clos.
pour qu'un Warren Zaïre-Emery, qui a pas encore, c'est pas encore titulaire, mais qui vraiment, on a l'impression que ça va pas tarder, quoi. Éclore à ce point-là, ça demande non seulement qu'il ait du talent, mais aussi un mindset où de lui-même, il est capable de compenser les manques qu'un club comme le Paris Saint-Germain pour intégrer les jeunes. Quand on parle de clubs comme Porto, quand on parle de clubs comme l'Ajax, quand on parle de clubs comme Leipzig, il y a une culture d'intégration des jeunes et tout est organisé par rapport à ça et ça change diamétralement le truc. C'est pour ça, vraiment, moi je milite, c'est si tu veux faire ça, dans le cas du Paris Saint-Germain, fais-toi un club filial, même si j'étais en train de bitcher contre les clubs filiales, parce qu'au moment où tu te demandes où est le sport, si un club devient que ça, mais si tu veux faire ça, fais-le avec un club filial. Organise le fait que tes joueurs puissent grandir dans un cadre où ils sont vraiment dans un cadre de compétition, mais sans pour autant être dans le cadre du Paris Saint-Germain, parce que 9 fois sur 10, dans le cadre du Paris Saint-Germain, tu risques de les flinguer tes jeunes.
Ça, c'est ma lecture, en tout cas. Là, vous êtes actuellement à 183 likes, les gars.
Alors vous pouvez faire mieux.
Vous pouvez
grave faire mieux. Like.
183 sur 500 personnes. C'est déjà pas mal, mais vous pouvez faire mieux. N'oubliez pas, jusqu'à dimanche, pour atteindre les 500 likes, il y a le bon d'achat sur le store Nike à gagner. Ok, on va enchaîner sur le fait que, pour une fois, je pense que les trois, la direction à trois têtes, entre guillemets, du Paris Saint-Germain, a l'air d'être sur la même longueur d'onde concernant les indésirables, parce que Luis Enrique ne se serait pas opposé au départ de Leandro Paredes, Mauro Icardi, Keylor Navas, Julian Draxler, Conan Agba, Kurzawa, Abdou Diallo et le fameux Wijnaldum. Donc déjà, est-ce qu'on part pas déjà dans une bonne vibe, parce que c'est pas tout le temps que les trois ils sont d'accord. Enrique, par exemple, il aurait pu faire le forcing pour dire « moi, je veux garder Paredes ».
Bah, c'est une bonne chose en soi, enfin si c'est réel, parce que le fameux trio tête s'entend bien, on a eu la même version l'an dernier, tu vois. Mais si les trois sont d'accord, ces joueurs, je ne les cite pas par hasard, ça fait longtemps que j'en parle de ces joueurs, en disant qu'à eux seuls, là, tous ces joueurs-là qui sont en prêt, là, qui préfèrent aller jouer dans les clubs les plus éclatés d'Europe plutôt que de jouer chez nous, mais en touchant leur salaire, hein, faut rappeler leur nom, hein. Combien ils touchent ces mecs-là? À eux tous, 60 millions net, hein, pas brut, hein, net. Donc si tu dégages tous ces gars-là, parce qu'après, on va me dire, je suis ingrat, je suis méchant avec Navas, je suis méchant avec Paredes, je suis méchant avec des mecs qui préfèrent jouer dans les clubs les plus éclatés d'Europe pour toucher leur salaire du PSG. Hein. Oui, il faut le retenir. Voilà, ces mecs-là coûtent 60 millions d'euros par an au Paris Saint-Germain. Donc, ça te fait un très, très bon transfert tous les ans que tu ne peux pas faire parce que tu préfères payer des joueurs qui ne sont pas au niveau de leur salaire. Donc, à un moment, si les mecs sont enfin d'accord pour tous les dégager, bon, qui on est pour s'y opposer? Vendez-les. À un moment, il faut arrêter de se foutre de la gueule du monde. Ces mecs-là, ils ont eu leur chance au PSG. Ils ont eu leur chance comme titulaire. Ils n'ont pas montré le niveau auquel on avait besoin. Et malgré ça, ils touchent des salaires mais de titulaires au Bayern Munich, frère. Ils sont mieux payés que Kimmich et Goretzka au Bayern. Donc à un moment, je suis désolé, ces mecs-là, c'est merci pour rien. À part pour Navas, merci pour Navas pour ce qu'il a fait. Les autres, c'est merci pour rien et au revoir. C'est tout.
Mais en fait, j'avais pas compris. J'ai vu la photo sur Twitter, Laurent, mais j'avais pas compris que c'est ce qu'ils avaient fait. En fait, là, du coup, les poteaux de Paris United, ce qu'ils font, c'est qu'ils mettent la photo de Matteo Guendouzi sur le live pendant une minute, et après, ils se barrent, et tant que vous ne likez pas, ils ne reviennent pas. Donc, Yacine Mousse, franchement, vous êtes des cracks, et si vous continuez à faire ça, on va faire comme eux. Parce qu'on ne va pas faire exactement la même chose. Il y a qui de pire que Guendouzi?
Lorixana, mais après c'est trop vieux, Lorixana. Mais Lorixana, ça aurait bien marché à l'époque.
Gabienze, ouais, j'aime bien l'idée.
Mais c'est trop vieux. C'est trop vieux, faut trouver plus récent.
Il y a qui de récent qui...
Galtier. Mais la grosse tête de Galtier en plein milieu, je suis sûr, tout le monde like.
Tu mets la tête de Galtier, tu dis tant qu'on n'est pas arrivé à 100 ou 200 likes, bah, vous verrez la tête de Galtier.
Galtier continuera à être payé par le Paris Saint-Germain tant que vous ne mettrez pas des likes sur ce live.
Ressé, c'est vrai qu'il y a Ressé.
C'est
ok.
Vrai.
On va parler d'une rumeur qui me semble complètement folle. On a galéré la saison juste avant celle de Galtier avec Pochettino, avec Donnarumma, Navas, la fameuse alternance. Il semblerait que on puisse accéder à l'épisode 2 Netflix de cette saga. Parce que, à ce qui paraît, le Paris Saint-Germain se serait positionné sur... le gardien du FC Séville. Du coup, est-ce qu'on partirait sur une alternance Bounou-Donnarumma? Est-ce que Bounou viendrait pour être le numéro 1 et Donnarumma, du coup, est complètement resacrifié et au final, et on repart à zéro. Il y a eu Aérona Trapp, ça n'a pas fonctionné. Il y a eu Navas Donnarumma, ça n'a pas fonctionné. Est-ce que vous pensez que cette fois, c'est une bonne idée?
C'est différent, en fait. La problématique c'est le coach qu'on a pris. Moi, ça m'a rendu fou quand tu prends Ugarte et juste après, tu annonces Enrique. Parce qu'il y a un moment où... Achète-toi une cohérence, quoi. Achète-toi. T'es en chien de 6, tu prends le 6, qui est l'archétype du 6 avec lequel va pas jouer Enrique, normalement, en tout cas, dans tout ce qu'il a montré. Et il attend que sa base arrière soit très, très bonne pour relancer au pied. Et le problème, c'est ben Donnarumma, c'est vraiment pas le profil, quoi. C'est vraiment pas le profil. Et donc, je pense que l'idée, si tu veux, l'idée, si c'est réel, hein, l'idée, c'est de ramener Bounou, pas pour mettre une alternance. Hein, c'est juste pour que Donnarumma aille sur le banc et que Bounou aille dans les cages. Parce que c'est un profil qui correspond beaucoup plus au coach que tu viens de choisir.
Comment ça va se passer, ça? Par exemple, Donnarumma, la saison prochaine, il est sur le banc et Bounou, il est titulaire. Et ça va être quoi les conséquences sur le vestiaire?
Ben le truc c'est que, enfin, il y a un moment où tu peux pas en permanence. Enfin, je crois qu'on a un des vestiaires les plus sensibles de l'histoire du football où tu bouges une orteille et tout à coup t'as tout l'autre pied qui s'agite. Tu comprends pas pourquoi ça te fait des remous, des vagues, des trucs. Il y a un moment où on prend un nouveau coach, donnons-lui des outils pour qu'il puisse jouer tel qu'il l'entend. C'est juste ça. Et c'est mais si tu peux. Tu peux faire une analyse et te dire, mais pourquoi est-ce qu'on a pris Enrique? Pourquoi t'as pas pris Nagelsmann? Tu prenais Nagelsmann, Donnarumma, il n'y avait pas de problème, Ugarte, il n'y avait pas de problème, etc. Il était capable de s'adapter à ça. Mais je ne sais pas pourquoi t'as pas pris Nagelsmann alors que les négociations étaient avancées. Finalement, tu fais Enrique, il n'y a pas de cohérence. Et le truc, c'est essayer de réussir à réinjecter un peu de cohérence pour être capable de proposer un football qui soit cohérent. Et dans ce cadre-là, bah, faire venir Bounou, Ça fait sens. Et voilà. Et donc, oui, ça créera des remous. Cela, pardon. Ça créera des remous, mais bon, c'est inévitable, quoi.
Mais quand même, on n'a pas dit que Ugarte ne va pas être un homme important au Paris Saint-Germain. On a dit que Luis Enrique, c'était pas son type de joueur favori. Vas-y, t'entends, ouais. Je t'écoute.
Concernant les gardiens, j'ai trié le débat en deux. Je vais d'abord parler de Bounou. Si tu me dis que Bounou, il vient pour 15 millions d'euros, c'est une excellente affaire compte tenu du prix et du rapport qualité que tu chopes avec le gardien en place. 15 millions, c'est un excellent prix pour un gardien qui a démontré en Europa League et au niveau international, parce qu'être performant en club et en sélection, c'est deux choses différentes et c'est rare d'être performant dans les deux en même temps. Le fait d'avoir un mec comme Bounou, c'est, à ce prix-là, c'est une bonne idée. Seulement, reconcurrencer Donnarumma qui t'a foutu Navas dans les pattes en lui faisant comprendre que tu n'avais pas confiance, et là, tu refais la même chose. S'il y a bien un poste où il ne faut pas jouer à la concurrence au foot, c'est celui-là. Hein. Vous faites ce que vous voulez avec tous les autres postes, hein. Mais il y a un poste où il ne faut pas faire le con et mettre deux joueurs en concurrence sans que ce soit établi dès le début, c'est celui-là. Mais donc, si tu repars là-dedans... Ouais, mais le problème, regarde, je vais te dire, le problème, quand tu vas instaurer cette concurrence, c'est que tu vas faire quoi? Donnarumma, il va faire un match de merde, tu l'envoies sur le banc et tu mets Bounou à la place. Et dès que Bounou il va faire un match de merde, tu remets.
Non, mais après l'idée.
C'est le pire truc.
Je suis d'accord, tonton. Mais dans ce cas-là, tu fais quoi? Tu prends un goal qui n'est pas du tout compatible avec. Après avoir pris un 6, tu prends un goal qui n'est pas du tout compatible. Tu vois?
Mais c'est pas que tu prends. Le goal est déjà là. Donc c'est plutôt la direction qui fait la connerie de ramener un coach après que les joueurs soient déjà arrivés. Le problème est d'autre part. Mais entre dit. Quand tu vois les autres pistes que propose Luis Enrique, c'est soit Bounou, soit Raya, soit Unai Simon, soit David De Gea. Tu préfères lequel? Moi, je préfère Bounou. Bon, parce que je suis avant tout hispanophobe, comme certains le disent dans le chat. Non, c'est une bonne blague, bien évidemment. À un moment, c'est surtout que Unai Simon, tu as déjà vu un club se manifester pour Unai Simon? Personne. Il n'y a que Luis Enrique qui se manifeste pour le mettre titulaire en Espagne et venir le chercher en club. Raya. À Wolverhampton, t'as vu beaucoup de clubs se bagarrer pour récupérer Raya? De Gea, il est libre. De Gea, il n'a pas signé dans un autre club à la fin de son contrat. Hein. Il est encore au chômage. Et donc, la seule option que t'as par ces mecs-là, c'est Bounou. Parce que le marché des gardiens, c'est un marché qui est très fermé. Donc, en fait, Bounou, c'est la seule bonne option. Le prix, il est plus que correct. Il est même pas cher. En revanche, le problème, c'est que quand tu vas faire ça, tu vas remettre en place la même concurrence qu'il y a eu entre Navas et Donnarumma, et elle est malsaine. Oui, mais donc à ce moment-là, ça veut dire que si tu recrutes Bounou et que tu ne mets pas en place cette concurrence, ça veut dire que tu achètes Bounou et qu'il est d'office numéro 1, et au moins c'est réglé.
C'est ça.
C'est ça, donc à ce moment-là, tu dis Adonnarumma.
Bah, c'est Adonnarumma, c'est
potentiellement. Donc tu dis Adonnarumma, potentiellement, t'es un échec et t'es sur le marché. Mais qui va acheter un gardien dans ces conditions-là?
Attendez, les gars, parce qu'il y a quelque chose, il y a une référence qui est dans les commentaires. John Peters nous dit que Henrique aurait déjà fait ça en 2015 avec Ter Stegen en LDC et Raoul Bravo en Liga.
Une sorte alors Claudio Bravo, ouais, qui était en, ouais, Claudio Bravo était en Liga et Ter Stegen était en Ligue des Champions. Seule saison où ça a marché d'ailleurs. Hein. Ça a marché qu'une seule fois. Après, Claudio Bravo, bah, qu'est-ce qui s'est passé? Au bout d'un an, il a demandé à partir à Manchester City.
Donc ça peut fonctionner. Vous seriez pour faire ça, mettre Boudou en Ligue des Champions et Donnarumma en Ligue 1?
Non, parce que Boudou, ce n'est pas la Ligue des Champions, son titulaire.
Moi, je suis pour qu'il n'y en ait qu'un seul qui soit titulaire et que l'autre soit là en tant que numéro 2.
Voilà. Mais tu fais pas. Ouais, mais justement, c'est... on est le seul club qui fait une concurrence de ce niveau-là sur ce poste quand même. Hein. Je veux dire, le seul qui l'ont fait, c'est le Real Madrid en 2012 avec José Mourinho quand il y a Casillas qui s'est blessé et que tu ramènes Diego Lopez. Hein. Mais à part ça, tu fais jamais ce type de concurrence. Mais le Sommer, il va être vendu par le Bayern.
On est d'accord, tonton. Mais le truc, c'est qu'on est obligé de faire avec l'incohérence du recrutement du coach que tu as pris et si tu veux, de faire au mieux au regard de cette situation. Mais le problème de départ, c'est pourquoi est-ce que tu prends Luis Enrique au regard de ton effectif, au regard du mec que tu as quasi signé, qui est Ugarte, etc. Maintenant qu'on a pris Enrique, et il faut faire au mieux. Tu vois ? Et c'est dans ce sens-là où moi je dis que c'est, pour moi ça tient la route en fait.
Non mais après oui, bon, ça reste la meilleure piste Boudou. Mais c'est comme je dis, le problème c'est qu'en faisant Boudou et à ce prix-là.
Tu flingues Donnarumma. Hein.
Tu remets une pièce dans le caddie, dans le feu au vestiaire. Après, si c'est assumé et que tu arrives à gérer ça correctement et que c'est le PSG qui en sort gagnant, bah fais-le, tu vois. Mais c'est compliqué, tu vois.
Je sais.
D'accord, les gars. Bah, on va voir ce qui se passe. Si on se retrouve avec une nouvelle alternance.
Je vois que ce sera Lloris. Vous connaissez pas Luis Enrique si vous pensez que ce sera Lloris. Hein, vu son jeu au pied catastrophique.
Non, on a déjà perdu une Coupe du Monde à cause de nos gardiens. Ça va aller.
J'ai un fanboy au Bora PSG. Il m'adore, a priori.
Bah, tant mieux pour toi. Non, mais blague à part, c'est comme je dis, c'est un moment. Si Luis Enrique dit que Donnarumma n'est pas suffisant ballon au pied, c'est pas pour recruter Lloris qui est encore moins bon ballon au pied, hein, les mecs. Il faut être un minimum cohérent. Hein. Les joueurs que j'ai cités, ils sont pas meilleurs que Donnarumma en tant que gardien, hein, mais ils sont tous meilleurs ballon au pied.
Et qu'il a dit, tu vas faire venir Dibu Martinez pour faire fuir Kylian.
Alors, okay, l'invasibilité, ouais, sauf ballon au pied. Parce que je vois dans le chat, il n'y a pas importe qui me dit ça. Navas, fiabilité, oui, sauf ballon au pied. Et Luis Enrique, s'il ne garde pas Donnarumma, c'est pour son jeu au pied. Mettez-vous bien ça dans le crâne, les mecs. Diogo Costa, oui, c'est une option intéressante.
Oui.
C'est plus, peut-être le profil le plus intéressant, mais il va valoir combien? Chez Jorge Mendes, il a tout. Il a tout, hein, il a tout pour signer au PSG, mais il va coûter super cher. Alors que Bounou, c'est 15 millions. Donc si tu mets que 15 sur Bounou, ça te permet de mettre la Kaya sur les autres postes.
Oh. Je suis plutôt d'accord avec toi, je ne saurais pas comment prononcer ça, parce qu'il y a des émoticônes, PNM R3, c'est vrai que après Leonardo, il partait sur le long terme, il s'est dit, il a 35 ans, il y a une opportunité de Donnarumma qui est libre, pendant 15 ans, le poste il sera couvert, en soi, sur le papier, c'était une bonne idée, c'était un bon, plutôt bon gardien, mais le problème, c'est que, vas-y, il y a des boulettes assez récurrentes. Mais je reste sur le fait que Donnarumma, sur sa ligue, je pense que c'est top 5 gardien. Je suis désolé, les gars. Balle au pied, il est terrible.
Tout ce
que vous venez sortir à Riyad, sur sa ligue, je pense qu'il est top 5.
C'est un énorme potentiel.
Il peut progresser balle au pied. Hein. Il est encore très jeune hein, comme un gardien. Il peut progresser balle au pied, mais est-ce que tu veux lui laisser le temps de ça ou pas?
Ça, c'est tout. On lui dit est-ce qu'il ne peut pas travailler son jeu au pied?
Bah, c'est pas si simple.
Si, truc, il n'a pas 35 ans.
Oui, bien sûr. Mais c'est pas forcément un truc que tu vas régler en un an avec les matchs, etc. etc. Faut un temps un petit peu long. Ça peut être 2-3 ans pour vraiment faire des progrès dessus avec des ateliers spécifiques parce qu'il y a des trucs que tu apprends. Puis après, il faut que tu répètes ces trucs-là pendant les matchs, etc., etc., etc. Ça met du temps, quoi. Ça met du temps.
Surtout non, mais bien sûr, mais ça peut se faire, mais après, quand tu vois la capacité de travail de Donnarumma et sa marge de progression qu'il a depuis qu'il a 16 ans, en soi, il peut le faire, mais il faut qu'il travaille dur et que ça devienne un vrai objectif de sa part de devenir un gardien qui est bon ballon au pied. Mais ça veut dire, comme tu dis, ça va être beaucoup de spécifiques, beaucoup de travail supplémentaire et d'heures supplémentaires. Est-ce qu'il est prêt à les faire aussi, tu vois, c'est ça la question.
Oui, je suis d'accord.
Est-ce qu'il est prêt à les faire pour garder son statut de titulaire au PSG? Ben ouais,
Moi, je pense
ça
qu'il est prêt. Après, c'est
me.
plus dans la finalité. Est-ce que ça, le résultat, il va être bon? Mais dans la mentalité, il a plutôt une bonne mentalité, Donnarumma, pour moi.
Et
Ouais, bien
non,
sûr, il est encore très jeune.
Maignan n'est pas libre. Si Maignan était libre.
Bah ouais, on serait dessus,
Ah,
bien
si
évidemment.
Emion n'était jamais parti, en fait, t'aurais pas de problème
Moi,
de
bah, en fait,
départ.
c'est encore plus con. L'année où on achète Donnarumma, Maignan part pour 10 millions à l'AC Milan. Vous faites ce que vous voulez de cette stat.
Non, mais ouais. Moi, franchement, j'irai pas trop sur Bounou. Je sais que c'est un très bon gardien, mais juste
Moi, c'est par
si je
rapport au
dégage
prix. Le
Donnarumma,
prix,
c'est
c'est
pour
ma merde.
Onana ou Maignan. Franchement, sinon, vas-y, je le
Ouais,
laisse.
mais Onana, il va signer à Manchester, hein, donc c'est ça le problème.
Oui, bah, il
Et
est sur le
Maignan, il veut pas
départ. Il est
revenir.
sur le départ. Tu peux te mettre dans le deal.
Oui, tu
Si
peux
tu peux.
hijack le deal, ouais.
Oui, donc moi, pour Onana ou Maignan, moi, ça me va. En plus, je pense qu'il y a des clubs italiens, ils ne seraient pas contre rapatrier Donnarumma en Italie. Donc.
Ouais.
Onana, je signe
Après,
tous
ah,
les
mais je
jours,
viens de penser à
mais.
un truc. Ouais, mais je viens de repenser à un truc. Il joue dans quel club déjà, Onana? L'Inter.
Il était à l'Ajax.
Ah ouais, l'Inter Milan, le fameux club avec
Ah
lequel
oui,
on
après.
négocie trop bien là. Les mecs, ils nous ont vendu Icardi à 75, Hakimi à 70, qu'on voulait nous vendre Skriniar à 60, à 80 un an de fin de contrat là. Et du coup, qui doivent bien nous faire la gueule d'avoir récupéré Skriniar gratuit, ouais. C'est ce
Oui,
club-là, ouais.
c'est cher,
Ouais,
Onana.
ça va être compliqué. Ça va être compliqué.
60
Peut-être
millions,
que
Onana,
Maignan, c'est
on
plus
nous dit.
simple. Ouais, c'est cher, Onana. C'est
Même
très,
plus,
très cher,
je pense
Onana.
même que si c'est pour nous, si c'est pour nous, attends, 60 millions pour Manchester. Si c'est pour nous, tu vas voir si l'Inter, il ne faut pas monter le prix encore. C'est
Ouais,
ça le
mais même
problème.
60, c'est. Et Maignan, c'est même pas la peine. C'est Maignan, si jamais il veut partir, il y a tous les clubs, mais tous les clubs
Mais
qui
Maignan, je
s'alignent
pense
pour
qu'il ne
trouver
veut
une
pas revenir
solution.
au Paris Saint-Germain. Il ne veut pas revenir au Paris Saint-Germain,
En
sinon il aurait
plus.
déjà fait ce qu'il faut pour. Il a vu les
En
cas. Et sinon, on a vu les performances de Donnarumma, lui, il les a vues. S'il voulait revenir au PSG, il aurait appelé Nasser, il aurait dit
plus.
hey, moi, je suis bon au pied, si tu veux, je suis meilleur que Donnarumma sur penalty.
Non, non, mais c'est sûr. C'est
Il a
sûr.
le caractère hein, de Maignan. S'il avait voulu revenir au PSG, il m'aurait fait vite comprendre.
Bon, les gars, j'ai créé un sujet de toute pièce. C'est pas du tout de
Vas-y.
l'actualité. C'est quelque
Dernier
chose qui
sujet
m'a.
alors, parce que.
C'est quelque chose qui m'intéresse. Est-ce que le Paris Saint-Germain ne manque pas d'un joueur cadre qui, entre guillemets, exigerait une certaine exigence dans le travail, dans le respect de l'institution, etc.
Je
Je vais
parle
vous
de
donner des
Zlatan.
exemples. Je vais vous donner des exemples de joueurs qui, pour moi, ont fait gagner des clubs. Liverpool a gagné la Ligue des Champions il n'y a pas si longtemps que ça. Pour moi, ce n'étaient pas les meilleurs joueurs de l'équipe, mais Milner et Anderson, ils sont pour quelque chose. Parce que c'est des mecs à l'entraînement, tout le temps, ils vont recadrer les mecs, ils vont leur dire, hey, on n'est pas là pour jouer. John Terry, Chelsea, quand Chelsea gagne sa première Ligue des Champions, il n'y est pas pour rien. Je me rappelle une interview de Gary Neville qui disait que Ferguson le gardait dans l'équipe plus pour son côté dans le vestiaire que sur le terrain les premières années.
John Terry,
Non,
Ferguson,
Gary
et sur
Neville,
le
Gary
dopo.
Neville, j'ai dit.
Ah, j'avais mal compris.
Gary Neville. Du coup, est-ce que ce joueur-là ne manque pas au Paris Saint-Germain? Tu vois, c'est le mec typique qui
C'est
aurait
qui
été
le
voir
leader à
Kylian
City?
Mbappé. C'est le mec typique qui aurait été voir Kylian Mbappé, l'aurait attrapé par l'épaule et aurait dit hey, petit, détends-toi. T'as
C'est qui
encore
le
rien
leader
gagné
à
ici.
City?
Et je crois que Thierry Henry,
Il n'y en a pas.
il avait dit ça dans une interview. Thierry Henry, qui est un gros joueur de première ligue, une légende, etc., du football français, football anglais. Il arrivait à Barcelone, il avait écrit Meskeun Club quelque part, et lui il rigolait. Et Xavi est venu, Xavi l'a attrapé, il a dit hey, frérot, t'as rien gagné ici. Tu
Nick,
respectes que quand
une
t'aurais gagné
question
quelque chose, on en parlera.
sur les gens, les cinq dernières Ligues des Champions, lesquelles ont été remportées avec un mec qui était comme ça dans l'équipe?
Bah, je t'ai donné l'exemple de Liverpool déjà, avec Milner
Ah, c'était il y
Anderson.
a combien de temps?
Attends, 5,
C'était en
ouais, non, ça
2019.
fait 6-7, ça fait 6-7, ouais, 5, ouais,
C'était en
t'as
2019.
la limite cette année,
C'était
ouais,
4 ans. Ce que
t'as
je veux
la
dire, c'est
limite
que
cette année.
le foot a changé. Ce que tu dis est très très vrai, mais il y a 10 ans, quoi. Le
Bah
foot, il a
non,
changé
le
depuis.
Real qui gagne, ils ont ça aussi.
Oui, il a changé. Bah, qui
Combien
le Real?
de fois Kroos il a recadré
Kroos.
Hasard publiquement
Ouais,
et a dit
Kroos, ouais.
l'autre il est venu pour jouer, il est venu pour les loisirs, on vient pas au Real Madrid pour se reposer. Il y a qui recadre
Je m'en
Kylian Mbappé dans
rappelle
le
pas, non.
vestiaire?
Non, mais Kroos, il a ce rôle au Real Madrid totalement, tu vois. Bon, après, si Dreyas ne le savait pas, c'est pas de sa faute, tu vois.
Mais je
Mais
suis pas sûr,
non, mais
parce
dans tous
qu'encore
les clubs.
on dit Casemiro Modric, c'est des leaders de terrain. Mais est-ce que c'est des leaders de vestiaire? J'en suis
Kroos.
pas sûr. Non,
Ah,
non, mais je lis
Kroos,
dans les
Kroos.
commentaires
Ah,
Casemiro Modric.
Moi, c'était Kroos, pas Casemiro Modric, ça tombe bien.
Je pense que
Mais
dans tous
écoute,
les
je te
clubs qui
parle
l'ont
dans le
gagné ces
chat.
dernières années, je trouve quelqu'un.
Et dans le et dans et à City, il y a qui? Enfin, toi, il n'y en a pas vraiment comme ça, des leaders de
City, il y en
vestiaire.
a.
Non.
City, à part Gundogan, je ne vois pas qui aurait pu avoir cette
place. Mais Gundogan, c'est même pas. Même Gundogan, ce n'est pas le cas. C'est un, pareil, c'était un leader de terrain. Ça n'a jamais été un leader de vestiaire, Gundogan.
Non, mais ce que je dis, à part Gundogan, et encore, tu vois, genre, je ne suis pas
hyper convaincu. Pas. Non, ce que je veux dire, c'est que le foot, il a changé. C'est-à-dire que maintenant, tu sais, par exemple, un truc qui existait. C'est, tu dois défendre à 11, tu dois attaquer à 11, etc. Et ce genre de précepte. Et d'une certaine manière, ce leader-là, tu es censé. Si tu veux gagner aujourd'hui, si tu veux aller loin, tu es censé. C'est, en fait, c'est ton équipe, ton leader.
Si Vincent, il t'a répondu, c'est Guardiola, il n'a pas tort.
Ah oui,
il a complètement raison, Vincent.
C'est vrai, il n'a pas besoin de jouer.
Non, mais attends. Ça, quand même, je suis obligé de la sortir, cette anecdote, parce qu'elle est incroyable. Mais t'imagines que Pep, à l'entraînement, ses joueurs, ils les appellent par leur numéro, ce grand fou. Ça veut dire qu'il en a rien à faire que tu t'appelles De Bruyne ou Haaland. C'est numéro 9, numéro 17. Mais oui, Vincent, il a totalement raison. Guardiola,
c'est bien sûr.
Comme il dit lui-même en conférence.
Mais alors, peut-être, mais la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que, par exemple, toi, l'exemple que tu étais en train de donner, Nyx, tout à l'heure, c'est tu disais qu'il y avait un mec qui était resté sur le terrain et le coach avait reconnu qu'il le gardait sur le terrain pour son poids dans le vestiaire. Est-ce qu'aujourd'hui, si tu veux gagner la Ligue des Champions, tu peux te permettre d'avoir un joueur qui est moins bon? Est-ce que, par exemple, le Liverpool qui gagne à la Ligue des Champions avec Anderson pourrait encore la gagner aujourd'hui? J'en suis pas sûr.
Le même vraiment. Anderson, ça dépend de quel âge tu donnes à Anderson. Parce
oui, non, mais, même, mais tu prends Anderson pas. À son prime, j'en suis pas sûr.
La question, Ligue des Champions 2019, le rôle d'Anderson dans les matchs, il est exceptionnel. C'est typique le joueur qui n'est pas très très fort individuellement. Et Miller, c'est pareil. Mais dans cette équipe, dans cet effectif, déjà, c'est les joueurs qui vont le plus se donner sur le terrain. Et deuxièmement, celui qui ne se donne pas, ils vont aller le chercher. Et ça, c'est ultra important dans un effectif. Parce que dans un effectif, tu vas avoir les joueurs qui tirent l'effectif vers l'avant et tu vas avoir les négatifs. Là. Tu sais, tous les mecs, à chaque fois, qui te disent « Ah ouais, mais je me sens un peu… j'ai pas très envie de m'entraîner aujourd'hui, tu vois ?» Et il y a toujours un mec qui va te dire « Allez les gars, on reste 20 minutes, on continue à travailler, etc. » Ou qui va vous dire, après un match, il va dire le match dernier, ce que tu as fait, c'était pas bien, frère. Tu n'étais pas au niveau, tu n'étais pas au niveau de jouer au Paris Saint-Germain. Il n'y a pas ça. On n'a pas ça.
J'entends, mais je ne suis pas sûr que ce soit ça. Pour moi, la préoccupation, c'est déjà de construire un effectif cohérent. Il y a un moment, il faut se rendre compte qu'on a des trous partout dans l'effectif. Et construire un effectif cohérent, et ensuite de ça, il est parti, tonton. Prends-toi un effectif cohérent. Et ensuite de ça, peut-être qu'on pourra parler de ces choses-là. Mais ce que je veux dire, c'est que si tu as ton effectif, tu vois, tu as Zlatan qui l'a porté en bout de bras, pour bout de bras, le PSG à ce niveau-là, où tu avais Christophe Jallet qui disait oh, c'était incroyable ce qui se passait en entraînement, le mec il était là avant, etc. Ça te donne envie et tout ça. Et ça compensait certains trucs, mais ça ne faisait que compenser certains trucs. Il y a un moment où tu en as besoin d'un petit peu plus, quoi.
Ouais, je pense qu'il y a effectivement le côté équipe, mais dans les grands matchs, c'est pas le collectif qui gagne, en fait. C'est pas le football qui gagne. La Ligue des Champions, notamment le match contre le Real Madrid, qu'on menait 1-0 au Parc et 1-0 à Santiago Bernabéu, c'est pas sur le côté football qu'on le perd. C'est sur le manque de leader. C'est qu'il n'y a personne. Tu vois, contrairement au Real, qui à un moment, Benzema... PSG-Real Madrid en 8e de finale, quand Mbappé marque à l'année... en fin de première avec mi-temps au Parc. Et là, avec quel coach? C'était Pochettino. Là, ce qui a manqué, c'est clairement un leader. Tu prends les deux équipes, tu regardes le Real Madrid, il est mené 2-0. T'as Benzema qui va attraper tout le monde. Il leur dit, les gars, on est le Real Madrid, on va revenir, on va faire ça. Et pareil, quand on a pris la remontada au Camp Nou, les joueurs, ils se sont dit, même Luis Enrique, il disait, on va le faire, les gars. Mentalement, les mecs qui sont arrivés, ils étaient prêts. Ça, on ne perd pas sous le football. Donc, tu auras beau former la meilleure équipe que tu veux, quand tu arrives dans ces moments-là, et c'est pour ça que City, d'ailleurs, se fait éliminer l'année d'avant face au Real, parce qu'ils ont perdu leur moyen mentalement, alors que footballistiquement parlant, ils étaient clairement au-dessus. S'il te manque ce joueur-là, s'il manque cette personne-là, des fois, ça peut être le coach, comme on a dit avec Guardiola, s'il te manque ça, bah, t'es cuit.
Je dis pas le contraire, tu vois, par exemple, le truc, c'est que tu me cites des exemples où Paris, d'une certaine manière, a compensé un manque à tous les niveaux par un peu un génie tactique, que ce soit Emery contre Barcelone à l'aller, que ce soit justement Pochettino contre le Real, où on les avait complètement bloqués, mais complètement, littéralement. Ils avaient rien fait pendant 45 x 3, pendant 135 minutes. Et le truc, c'est c'est que quand d'une certaine manière, on était un peu en surchauffe. Ce que je suis pas en train de te dire que tu as tort, en fait. Je suis en train de te dire que si tu n'as pas un minimum de cohérence dans la construction de ton effectif, si tu ramènes justement cette espèce de supplément d'âme qui va t'amener des certitudes, etc., et que tu n'as aucune cohérence dans ton équipe, le mec sera forcément limité. Il y aura forcément des blocages et tu vas forcément t'appeler un plafond de verre. Les deux, en fait, sans doute, sont nécessaires. Mais commence déjà par ramener une cohérence dans l'effectif. Et commence par, tu vois, de la même manière que tu disais, bah voilà, Guardiola, c'est un très bon exemple. Il y avait un football très cohérent, ils n'arrivaient pas à franchir le dernier étage. Et ils y sont allés petit à petit. Mais nous, on n'a même pas le football cohérent et on essaye un petit peu, pas à l'esbrouf, mais si tu veux, en compensant et en trouvant, en comptant sur un peu de génie tactique de la part de Pochettino ou de Emery, pour aller trouver des solutions et proposer des choses. Mais il y a un moment où tu as besoin d'avoir... j'arriverai pas à mieux le dire, mais je pense que les deux sont nécessaires, mais que tu peux faire l'abstraction du grand leader et tu auras ce plafond de verre qu'à City, mais je pense que tu peux pas faire de l'abstraction de la cohérence de l'effectif parce qu'à ce moment-là, tu n'auras à aucun moment du jeu, tu n'auras pas l'adhésion du public par rapport à ce que tu proposes, etc. etc. et à aucun moment, tu seras intéressant à regarder.
En fait, on est d'accord là-dessus, Dreyas. En fait, on dit juste la même chose, en fait.
Il faut les deux.
Parce que le collectif, certes, mais je t'ai donné l'exemple de City qui, footballistiquement parlant, était au-dessus. Manque de leaders, ils ont sauté. Et j'ai vu dans les commentaires, il y a des gens qui disent Neymar, il dribble tout seul, il dribble des joueurs comme s'il est sur la plage de Sao Paulo. Il n'y a personne qui lui dit quoi que ce soit. Il y a Mbappé qui, des fois, il ne défend pas, il est en train de marcher, personne ne lui dit. On a vu, effectivement, j'ai vu dans les commentaires, des fois, Danilo qui pète un câble sur Messi ou sur Neymar ou des trucs comme ça, mais sinon, on ne voit pas ça. On ne voit absolument pas ça sur le terrain. Écoutez, les gars, si vous n'avez pas de questions... On va rester là, ça fait quoi, 1h30 qu'on est en live. Tonton, il ne doit plus avoir de batterie, donc on a perdu un soldat en route. C'est ça quand on live depuis son téléphone. N'oubliez pas de liker et il y a un bon d'achat à gagner si vous tapez les 500 likes d'ici dimanche soir. Là, vous êtes plutôt bien parti. Ah, il est revenu, même s'il y a écrit Nix. Là, vous êtes à 242 j'aime, donc vous êtes à la moitié. Il y en a plein qui vont regarder... en replay, donc je pense que vous allez taper les 500 likes d'ici dimanche soir. Donc on va faire gagner le bon d'achat. N'hésitez pas à commenter, dire votre pire joueur que vous avez connu au Paris Saint-Germain dans les commentaires, pas dans le chat. C'est comme ça qu'on va faire le tirage au sort. Donc surtout, allez commenter après la vidéo dans les commentaires et dites-nous qui est votre pire joueur que vous avez vu au Paris Saint-Germain pour essayer de gagner le bon d'achat de 20€ qui va payer votre flocage sur votre maillot PSG. Je ne sais pas qu'est-ce que vous voulez floquer. D'ailleurs, vous pensez quoi des mecs qui floquent des trucs genre... c'est pas des noms de joueurs, genre... ils écrivent des trucs genre le nom de leur quartier, des trucs comme ça.
Ils font ce qu'ils veulent. Ils ont payé le flocage, ils font ce qu'ils veulent, frère. Après, moi, je le ferai pas. Mais c'est leur problème.
Il y a un mec qui avait flaqué Thanos ou des trucs comme ça, Thanos 75.
J'ai vu des flocages, je ne m'exprimerai même pas sur le sujet tellement ils étaient affreux. Mais au final, t'as payé ton maillot, tu fais ce que tu veux de ton flocage. Mais par contre... si tu fais ce que tu veux de ton flocage, les gens, ils peuvent en dire ce qu'ils veulent, du coup. Ça marche dans les deux sens.
Écoutez, les gars, on va vous laisser. C'était un très beau live, franchement. Ouais, vas-y.
Si je peux me permettre, n'hésitez pas à faire péter cette purée de barre de like, là, et à vous abonner un maximum à Paris Central, surtout un maximum pour nous aider à nous développer au mieux. Et si je peux me permettre mon propre instant pub, on n'est pas loin des 1000 abonnés sur ma chaîne perso. Si je peux me permettre de mettre dans le chat pour ceux que ça intéresse, où on parle du PSG, mais pas que. Et sinon, c'est tout ce que j'avais à dire.
Ok, Trophée des Champions, c'est où et quand? Pour l'instant, c'est annulé, mon gars. Il n'y a pas d'info là-dessus. Si ça se passe, ce sera en janvier. C'était censé être en Asie, ça a été annulé. Ok, écoutez, les gars, on va se laisser là-dessus. Passez un bon samedi.
Restez connectés sur Paris Central.
Et on va continuer à faire du foot et du mercato toute la semaine. Restez connectés. Et n'oubliez pas que ici, c'est
Paris.